Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le seul podcast entièrement dédié aux relations amicales. Des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations et aussi parfois te divertir. Je suis très reconnaissante de te partager l'histoire du jour. Depuis 4 ans, dans Friendship, tu découvres des amitiés, des histoires qui durent, des projets amicaux, des relations plus ou moins chahutées par la vie. Et aujourd'hui, tu vas entendre l'histoire de Lucie, Caroline et Clémence. Mais Clémence n'est pas là pour parler de leur trio. Lucie et Caroline sont toutes les deux pour parler de leur histoire, de Clémence aussi et de sa maladie qui a fini par gagner. Alors comment se reconstruire après le décès d'une amie? Comment continuer de la faire vivre à travers nous? C'est un épisode aussi joyeux qu'émouvant. Oui, nous avons pleuré, mais la leçon de vie et de résilience que partagent Caroline et Lucie est extrêmement puissante. Alors merci pour leur confiance et pour leur temps. Je pense aussi très fort aux parents de Clémence qui ont rendu cet épisode possible. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants.
You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. You can count on me, cause I can count on you.
À quoi ça sert les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment?
N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié?
Ton ami, c'est moi. Je suis ton ami.
Salut Caro.
Salut.
Salut Lucie.
Salut.
Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être avec moi dans Friendship. On va parler d'un gros sujet aujourd'hui, mais avant d'en dire un peu plus, je vais vous demander de vous présenter. Et les présentations dans Friendship, elles se font en inversé. C'est-à-dire que c'est Lucie qui va présenter Caro et Caro qui va présenter Lucie.
Ok. Eh bien, tu commences, ma grande.
Très bien. Alors, je commence. Eh bien, elle s'appelle Caroline. Je ne sais jamais combien on a d'écart. Un an ou deux. Voilà. Donc, elle a un an ou deux de plus que moi, sachant que j'ai 33 ans. Je lui donne une petite piste pour tout à l'heure. Mais elle aurait moins eu besoin d'aide
mais
que moi.
Moi, je sais.
Voilà. Voilà. Elle est réflexologue de talent à Nantes depuis une bonne année maintenant. Et ça cartonne pour elle et j'en suis ravie. Et voilà. Et c'est mon amie depuis... Oula, longtemps, trop.
14
trop
ans, longtemps. Je pense, par rapport au calcul que j'ai
compter.
Fait.
Exactement.
Mais on en reparle.
Eh bien, j'ai en face de moi donc Lucie. Je le dis, son surnom c'est Minette, puisque je ne l'appelle jamais Lucie. Donc comme ça, les bases sont posées, parce que je risque de l'appeler Minette tout le temps. Elle a donc alors 2 ans d'écart avec moi, donc voilà. Elle est coach de talent également, énergéticienne. Elle habite à Nantes. Tu es également une personne très talentueuse, une personne à l'écoute, une personne très drôle, une amie qu'on aime à avoir dans sa vie. Et voilà. Et elle ne me lâche jamais. Bon,
jamais.
Vous allez faire des jaloux et des jalouses. Hein. Si jamais. C'est une amie parfaite, on a tous envie de l'avoir dans notre vie.
Tout à fait.
J'ai été beaucoup trop avare en compliments auprès de Caro, mais bon, voilà.
Ça vient.
Ça reste en mémoire.
On va attendre pour chialer, voilà. Puisque c'est l'idée.
Alors, pour parler de chialer, on va peut-être pas commencer tout de suite. Cet épisode, en tout cas, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est Clémence, qui n'est pas avec nous parce qu'elle est décédée il y a 4 ans. Elle est décédée d'une longue maladie, donc on va avoir le temps de revenir dessus. Et vous formiez un trio, toutes les trois. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous la présenter, puisqu'elle n'est pas là pour le faire. Donc, voilà.
Carrément, vas-y.
Alors, Clémence. Clémence, c'est une petite rouquine aux cheveux bouclés, qui se marre tout le temps, qui a énormément d'autodérision, qui est une petite boule de joie de vivre, mais qui aime aussi énormément gueuler.
C'est ça, exactement. Et Clémence, c'est un sacré caractère, mais qui a aussi ce grand talent de rassembler les gens. Enfin, en fait, elle était entourée de plein de personnes d'horizons et de connaissances différentes, et il y a plein de gens qu'on voit par exemple plus depuis que Clémence est partie, parce qu'elle avait ce truc-là de réussir à être une sorte de pivot en fait entre les gens.
Elle faisait le lien, quoi.
Exactement. Et elle était hyper à l'aise avec plein de personnalités différentes, plein de milieux différents, et quelqu'un d'hyper curieuse aussi. Elle adorait lire le ciné. Une érudite, enfin franchement, elle était quand même assez pointue.
Non, carrément.
Donc voilà, donc à la fois quelqu'un d'intellectuel,
de cultivé,
franchement, et en même temps qui fait des grimaces, tu vois, voilà.
Oui, très voilà. Pipi caca dans le très sens pipi, de l'humour, voilà. En même temps qu'elle va te sortir une donnée sur un film d'auteur que personne ne connaît et qu'elle a compris que, voilà.
Donc, okay. Bon. Pleine de contradictions, voilà.
Pleine de surprises, du coup.
Voilà, ce qui fait son charme, hein.
Oui.
Très bien. On va commencer par le début de votre histoire. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes rencontrées toutes les trois et comment est née un peu cette amitié ?
Je me lance.
Ça commence par toi, je crois.
Oui. Donc, on s'est rencontrées en 2010 dans une école de communication à Nantes. C'était notre licence. Moi, je ne l'avais pas forcément remarqué au début, à l'inverse de Minette, où je me suis dit « Ouh, celle-là, elle ne va pas être ma copine parce qu'elle est too much. »
C'est toujours comme ça que
voilà.
Ça
voilà. Mais finalement, donc Clémence, assez vite, on s'est capté, on a bien rigolé. Et assez vite, je me suis dit « Oh, du donc, ce ne serait pas une petite sorte d'âme sœur amicale, cette fille-là. » Et puis, quelques mois plus tard, finalement, la petite Minette...
sort du bois.
Voilà. Et en fait, je ne sais même plus trop. En vrai, toi et moi, enfin, toi et nous, comment une soirée, j'imagine, où finalement, on s'est mis à se marrer et voilà.
Je réfléchissais à ça tout à l'heure et forcément en préparant le podcast et je ne me souviens pas. En fait, clairement, moi, j'ai rencontré un duo à la base, quoi. Et je ne saurais même pas expliquer qu'est-ce qui a fait, comment, pourquoi, est-ce que c'est devenu un trio, à quel moment... Enfin, en fait...
À quel moment ça a basculé
Aucune idée. Vraiment aucune idée. Mais du coup, je les ai rencontrées. Elles faisaient déjà une paire, en fait. Même si... je crois que j'ai été d'abord proche... Enfin, je me suis sentie, en tout cas, d'abord proche de Clémence. Et c'est après, au fil des rigolades, des machins, des trucs, qu'en fait, Caro... a pris sa place, quoi. Mais typiquement, ce truc de pivot, tu vois, Clémence, qui fit bien avec tout le monde, qui se dit « Ah mais si, j'avais fait un projet avec Clémence, c'était pour ça que je m'étais d'abord... » Tu sais, le truc solidaire, là. Et effectivement, maintenant que j'y pense, j'étais dans le groupe de Clémence. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rapprochés et qu'on s'est marrés, qu'on est devenus plutôt proches avec Clémence et Caro est arrivé avec...
Et en termes de temporalité, du coup, vous formiez déjà un duo depuis... longtemps, enfin, ça faisait déjà une ou deux années que vous étiez à l'école ensemble.
Du coup, la rentrée, c'était septembre 2010. Ça a dû vraiment accrocher très vite, très fort en octobre 2010 avec Clémence. Donc, juste le mois, tu sais, le temps de connaître tout le monde. Et donc, le projet, ça devait être décembre, janvier, un truc comme ça.
Donc, ça a été quand même assez
rapide.
Oui.
Enfin, globalement, une fois Noël est arrivé, c'est bon, on était déjà les copines, quoi.
On en a parlé un peu tout à l'heure de la dynamique de trio. C'était difficile de trouver ta place dans un duo déjà formé ?
Oui et non, en fait. Je crois qu'il y avait un peu ce truc de « putain, elles sont trop cool, elles forment un duo, c'est trop bien ». Je sais pas, alors c'est la première fois que je dis ça, mais du coup, j'ai aucune énergie à dépenser dans le fait de les garder les deux. Si j'en garde une, je garde l'autre, donc c'est trop cool. Donc, non, mais tu vois, et du coup, en fait, étonnamment, ça m'a soulagée même qu'elles forment une paire, et une paire que j'adore, et donc du coup, je sais pas. En fait, moi, quand je pense à... Parce que bien sûr qu'il y a une dynamique entre Caro et moi, bien sûr qu'il y avait une dynamique entre Clémence et moi de duo. Mais moi, ça m'a toujours été, allez, je sais pas comment on dit, qu'elles aient un lien particulier et d'être témoin de ce lien particulier, ça m'a jamais posé problème. Alors que ça peut être un truc qui me pose problème à plein d'endroits dans ma vie. Mais là, je sais pas, au contraire, ça me... Je sais pas, j'étais contente de les avoir toutes les deux, tout le temps, l'une avec l'autre. Donc non, ça n'a pas été difficile, en fait, ça, pour moi, bizarrement.
Ouais, bah c'est aussi ce qui fait l'amitié, je pense. C'est tout un truc de... Il y avait votre dynamique de trois duos et votre dynamique en trio qui, quand t'es que en duo, tu partages pas forcément les mêmes choses. Et la personne va pas chercher en toi ce qu'elle cherchait en carreau. Enfin, on se confie pas de la même manière aussi. Enfin, il y a différentes choses... Il n'y a pas d'exclusivité, quoi, j'ai envie de dire.
Bah ouais, c'est clair. Mais de la même façon, je pense que... Enfin, je sais pas si tu ressens ce truc-là, qu'il y a plus ce truc de vous deux et moi qui suis arrivée. Enfin, je sais pas si c'est un truc que moi, je ressens que moi, mais...
Ben, si, parce que l'histoire a fait qu'effectivement, on était proches avant toi, entre guillemets. Et l'histoire a fait aussi après qu'on a vécu un truc, toutes les deux, géographiquement parlant, où du coup, tu nous as pas suivis sur cette histoire-là, mais parce que t'as choisi un autre chemin. Oui, Clémence, le coup de cœur amical, c'est vraiment ça, quoi. Il y a un truc où on te dit, tu trouves ton amour de ta vie et t'as ton amour aussi amical. Et bah elle, c'était ça pour moi, mais ça veut pas dire que Minette l'est pas. Oui, c'est autre chose.
Ça s'est pas fait de la même manière aussi.
Ouais. Oui, et puis la vie a fait qu'on n'a pas vécu les mêmes choses aussi.
Ouais, et puis je sais pas, je pense que parfois il y a un truc qui est tellement évident d'une certaine manière, et surtout, et franchement, vraiment, c'est un exploit, parce que vu comment moi je suis construite, ça aurait pu mettre tellement en difficulté, en insécurité d'être. Et en fait, pas du tout.
Non, il y a jamais eu de jalousie mal placée entre nous trois.
Ah non,
jamais.
Et est-ce qu'à un moment donné, il y a un truc du regard des autres, de à partir du moment où les autres parlent de nous comme les trois inséparables, ou j'en sais rien, je sais pas comment on vous appelait dans votre groupe ou quoi, et plus comme le duo Clémence et Caro, ça y est, c'est acté, c'est que même dans l'esprit des gens, je suis vraiment entrée en relation.
Mais ça s'est pas du tout passé comme ça, en fait. Non. Parce que notre trio, il existe que dans nos têtes, enfin, je sais pas comment expliquer, enfin, j'ai l'impression, en fait, parce qu'on a toujours été tellement hyper entourés de plein d'autres gens tout le temps, même à Sciences Com, enfin, je sais pas ce que...
En fait, si tu reprends l'histoire un peu de base, au début, effectivement, il y avait ce duo, et donc toi aussi, mais on avait à peu près, on était un groupe de 5 copines. Et en fait, on sait pas trop comment, au fur et à mesure, une partait. Et même après, on en rigolait, on était là, en fait, on est horrible, on a viré les autres, alors que je pense que si ces personnes-là nous écoutent, elles vont nous dire, bah non, en fait, genre, j'avais juste marre, ou j'ai rencontré d'autres personnes, enfin bref. Mais du coup, ça s'est fait aussi naturellement de rester tous les trois à la fin. Bizarrement.
Ouais, c'est possible. Et pour le coup, il y a quand même des gens qui sont restés. Mais je sais pas, il y avait un truc particulier entre nous trois.
Pour la suite, je pense que le moment dont tu parles, c'est le moment où vous partez à l'étranger. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce moment et aussi pourquoi toi, tu suis pas ?
Alors, en fait, ça faisait partie du cursus de notre école de communication. En troisième année, donc Master 2, on avait la possibilité de faire les 4 premiers mois, donc de septembre à genre Noël, soit en alternance, stage. Je ne sais plus comment ils appelaient ça. Bon, en immersion en entreprise, en France ou à l'étranger. Soit tu faisais un semestre d'échange avec l'école partenaire, avec des écoles partenaires de notre école. Et donc, il fallait remplir un dossier, lettre de motivation, un truc un peu histoire de faire genre t'étais sérieuse. Et pour la petite anecdote, on reçoit toutes les deux la lettre de notre admission. Moi, je suis admise à Londres. Elle est admise aux États-Unis. Sauf que c'était pas ça le plan.
C'était pas l'idée.
On devait être ensemble. Et je me souviens très bien arriver le matin au bureau de la celle qui s'occupait de notre promo.
Ouais, voilà, une conseillère pédagogique,
ouais,
comme ça. Ouais.
Secrétaire de bon bref. Et littéralement lui dire s'il te plaît, mets-nous ensemble, on peut pas être séparés. Déjà la crédibilité des nanas, quoi. Ouais. Tu sens vraiment que
hyper
les
sérieuse,
études.
Ouais, fait une lettre de motivation
ça,
juste
voilà.
Avant.
Vraiment notre volonté c'était d'apprendre.
Ouais.
Et finalement bon, il s'avère que cette dame nous aimait quand même bien, et elle a tripatouillé je ne sais quoi dans nos dossiers, et on a été du coup acceptées toutes les deux à Londres. Et donc on est parti de septembre à décembre en échange Erasmus à Londres. Donc pour ceux qui ont fait Erasmus, on n'apprend pas beaucoup, on boit beaucoup.
On fait beaucoup la fête. Ouais.
Voilà.
Et du coup, bah pourquoi moi j'y suis pas allée ? Parce qu'en fait, j'avais arrêté mes études à ce moment-là.
Ouais, t'as pas fait la troisième année.
J'ai pas fait la troisième année, moi.
Ok.
En fait, j'ai fait 2 stages qui se sont bien passés, et puis j'en avais un peu ras-le-bol des études. J'avais l'impression que j'étais opérationnelle pour le marché du travail. Et comme moi, je voulais rester sur Nantes, et qu'on m'avait mis dans la tête que bosser en agence à Nantes, enfin sans vouloir passer par Paris, en fait, c'était ça le truc. C'était un peu un doux rêve. Quand j'ai vu que le doux rêve était accessible, j'ai fait oh là, je vais m'accrocher fort à ça. Si je peux économiser 6 000 balles en passant, en faisant une année en moins, bah, je vais le faire. Et donc voilà. Et de toute façon, moi, j'étais en couple à ce moment-là. Ça fait très longtemps que je suis en couple.
Oui, ça c'est oui. Chose à dire aussi.
De toute façon, c'était pas négociable. Enfin, je serais pas partie. Je me sentais pas du tout de partir et de laisser mon cher étendre à ce moment-là. Voilà.
Tout à l'heure, tu parlais que c'était improbable que dans cette relation amicale, t'aies pas de d'insécurité ou de jalousie et tout. Là, elles partent toutes les deux à Londres.
Voilà, on va en parler. Ouais. Voilà, là on va en parler. Bah, non, en fait, en réalité, donc là ça a été, en ce qui me concerne en tout cas, un des plus gros clashs dans notre amitié. Et là, Clémence a bien joué son rôle de pivot aussi, puisque en fait, je suis allée les voir avec Teddy, donc mon cher étendre, Minou bien sûr.
Minette et Minou.
Ah bah voilà.
Voilà. Et sans m'en rendre compte, j'ai été exécrable ce week-end-là. Parce que j'étais hyper jalouse. Honnêtement, j'étais pas tant jalouse avec le recul qu'elles y aillent toutes les deux, mais de l'expérience qu'elles vivaient en fait. Et du coup, j'ai été exécrable, je pense, tout le week-end à trouver tout ce qui n'allait pas, à mettre de l'emphase sur. En fait, c'est pas si bien que ça pour me rassurer moi, tout bêtement. Et autant Clémence, c'était pas trop une nana fan du conflit et tout, puis ça lui passait un peu au-dessus, autant la petite là. Putain.
Moi, c'est. Non.
Pourtant, vous avez quand même dit quand vous avez présenté Clémence qu'elle aimait bien gueuler.
C'est vrai.
Oui, mais tu sais, gueuler pour gueuler. Tu sais, comme une bonne française. Genre, okay. Oh putain, mais ça c'est chiant.
Oh, on est coincé dans les bouchons.
Ouais. Voilà, relou, plus quoi. Ça. Ouais, ouais. Okay. Elle aimait pas le conflit. Enfin, elle gueulait derrière le dos des gens aussi, tu vois. Ouais. Genre, elle me casse les couilles, mais dès que c'était en face, elle disait rien, quoi.
Non, c'était pas une grande fan du conflit. Par contre, l'autre là,
moi, oui,
ça a dû bitcher sur toi après quand t'es partie.
Ah, mais tu rigoles ou quoi? Bien sûr.
C'est sûr, j'ai pris tellement cher. Mais et du coup, ce qui se passe, c'est que moi, je ne suis pas au courant. Et elle rentre en France et je vois bien qu'il y a une dynamique bizarre avec la petite Caroline.
Je l'évitais.
Elle m'évitait de ouf.
Et pour lui faire comprendre.
Et moi, je sens le truc. Et un jour, j'en parle à Clémence. Et elle me dit, écoute, parle-en avec elle. Donc, je comprends, vu que Clémence me dit ça. Mais elle ne me dit vraiment rien de plus. Elle me dit, écoute, moi, je sais pas, vois avec elle.
Elle sait pas.
Non mais tu vois, c'est pas mes histoires, machin. Bien sûr qu'elle était au courant, mais et pour le coup, c'est ça qui est aussi chouette et qui raconte quelque chose de Clémence, c'est que malgré ce truc-là, malgré le fait que Caro était hyper, parce que Caro quand elle est hyper vénère, tu vois. Donc malgré le fait que Caro avait pas envie de voir ma tronche à ce moment-là, qu'elles étaient hyper proches, Clémence, elle restait vraiment naturelle avec moi. Enfin, tu vois, pas de sujet. Et donc voilà. Et donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Caro qui m'a expliqué. J'ai fondu en larmes. J'ai dit, je ne suis qu'une grosse merde. Oui. Pardon.
Et Caro a dit, aime-moi. Oui, c'est vrai.
Non, là j'avoue, j'ai fait. Bon, je vais arrêter d'être méchante.
Et là, elle a fait. Bon, d'accord. Allez, on n'en parle plus.
Et
voilà. Ouais.
Ok. Et vous êtes jamais revenu dessus?
Oh, si, on en.
Si, mais.
Comme ça, Henri,
par contre, il n'y avait plus de sujet.
Okay. Ah non, c'est bon, c'était fini.
Non, mais parce qu'en fait, je pense qu'en fait, elle pensait que j'allais partir en mode fight potentiellement, tu vois.
Exactement. Okay. J'allais devoir me justifier d'avoir ressenti qu'elle était relou. Tu vois, qu'elle allait dire, bah non, pas du tout.
Ouais, alors qu'elle m'a dit le truc, j'ai compris, j'ai dit, putain, je comprends, Caro, je suis désolée, pardon. Enfin, tu vois. Okay. Et basta, enfin vraiment. Ouais.
Moi, tu t'excuses,
ok. Trop bien, si ça se passe comme ça, même si ça n'a pas dû être facile ni pour l'une ni pour l'autre.
Bah, au final, moi, ça m'a soulagée. Parce que du coup, je savais ce qui se passait. Et puis, ça m'a permis. Enfin, en fait, la réaction était tellement instinctive, naturelle, de dire ah non, mais en fait, il n'y a pas de sujet, je suis désolée. Enfin, pardon, je comprends. Du coup, ça a tué le truc dans l'œuf.
Ah bah,
il n'y avait plus de sujet.
Ouais.
Et ça vous est arrivé de repartir en voyage toutes les trois? Alors là, vous habitiez toutes les deux à Londres, donc c'est Lucie qui est venue vous rejoindre. Mais est-ce que ça vous est arrivé de partir en voyage toutes les trois et du coup de vous dire oh là là, faut pas que ça arrive comme à Londres?
Mais non, parce que la dynamique était hyper différente. Mais par contre, si on est allé à Cannes, on a fait des vacances, bon, pas que toutes les trois, mais c'est la seule fois que toutes les trois d'ailleurs
à Cannes. Ouais.
Le fait qu'il y ait une prise de tronche entre deux d'entre nous, ça n'a jamais été un sujet, à part à ce moment-là. Franchement,
non, c'est jamais.
Il n'y a jamais de moment où il y en a une qui a été mise un peu à l'écart, où on n'avait plus trop envie de voir l'une, où on... jamais quoi.
Okay.
Jamais. Il y a vraiment que ce moment-là. Mais bon, pour le coup, j'avais été chiante quoi. Donc tu vois, je comprends quoi.
Londres, toi, tu me racontais que c'était le meilleur souvenir que tu as dans cette relation.
Ah ouais, de ouf. Bah tu vois bien, t'es en dernière année d'études, donc voilà, t'es plus une gamine de 18 ans. Bon, même si en vrai, on était quand même clairement immature, mais voilà. T'as quand même un peu de bouteille dans tes études. C'est effectivement Erasmus, donc on devait avoir, on avait compté, je crois, à l'époque, on devait avoir une vingtaine d'heures de cours en semaine. Ouais. Donc autant te dire, peanuts. Et par contre, là aussi, on avait bien compté, on faisait la fête le jeudi, le vendredi et le samedi, toutes les semaines.
Trop bien.
Voilà, donc je pense que c'était. Il n'y a pas eu de moment où on a été plus proche. On habitait pas le même immeuble, mais c'était les deux immeubles qui se collaient. Et même si on ne. Genre, t'es en lendemain de mine, gueule de bois, tu sors pas de ta chambre étudiante et genre, tu mets des films toute la journée, et ben même ça, on arrivait à passer 3 heures par Skype.
Tu vois, les flemmards. Même pas vous non, sortiez de l'appart pour aller dans l'appart de l'autre.
On se skypait, ouais.
Ça, je savais pas ça.
Ouais, assis. enfin, on était extrêmement proches.
Ouais, ouais, ouais.
C'est la... ouais, on faisait même plus. Là, c'était même plus un duo. C'était, on était une seule et même personne, quoi. Mmh. C'était un truc hyper fort, hyper intense. Que des bons souvenirs, parce que du coup, tu passes ton temps à t'éclater.
Ouais.
Alors, t'avais deux, trois examens, mais franchement, on savait que c'était déjà donné. Donc, zéro pression, quoi. Hors ouais, de, hors du monde, ça, hors de ta famille, hors de France. Ouais, c'était ouf. Bah, on est rentré en France, on chialait dans le bus en mode ouais. Cette parenthèse qu'on ne vivra jamais est finie. Et putain, ouais, c'était ouf. Et
j'allais te demander justement le retour en France, au-delà de l'aspect Erasmus, de on n'a pas grand-chose à faire à part faire la fête et s'amuser, mais surtout rentrer et ne plus être. Qu'un, finalement.
J'ai pas le souvenir que c'était compliqué. En fait, je pense que la pause à Noël a été une espèce de petite pause, justement. Non,
je répète, quoi.
Ouais, genre. Voilà. Exactement. Donc, t'as eu Noël, et puis bon, bah, après, on retournait à l'école, on retournait dans notre école de com, on était quand même encore toutes les deux, donc...
Ouais.
Non, je l'ai pas mal vécu. Nostalgie, mais pas de dépression, quoi.
Ouais. Et du coup, comment... Parce que quand toi, tu rentres, c'est un peu la tension, on va dire, coup, maximale ouais, dans
là,
la villa.
Là, mais moi, je suis ravie de les retrouver. Puis comment te dire, je sens qu'il y a un enthousiasme mitigé.
Parce que toi, tu te dis, allez, je vais les accueillir à la gare. J'imagine que c'était en train que vous, en bus, que vous êtes rentrés.
Ah non, parce que du coup, on arrivait... je crois qu'on avait pris les billets les moins chers. Donc les billets les moins chers égale aussi ouais. Les plus proches de Noël. Donc on a dû rentrer en France le 24.
Ah oui, ok.
Et on avait pris un bus qui faisait Paris-Rennes, parce que elle habitait sa famille habite à Rennes, moi à Dinan. Donc okay, mes parents étaient aussi venus me chercher à Rennes. Donc en gros, on s'est séparés sur le quai de la gare routière. Bon bah salut, passe un bon Noël et direct avec les familles.
Ouais, pas le temps de réfléchir ouais, quoi. Et du coup, voilà. Même pas le temps de passer un moment.
Donc toi, t'étais pas là, non? T'étais à Nantes avec ta famille aussi.
Ah bah ouais. Oui. Enfin ouais, oui. Bah enfin, je me rappelle même pas de votre retour.
Non.
Comme d'un truc marquant, je pense qu'effectivement, c'est arrivé avec la rentrée. De toute façon, moi, je bossais déjà à ce moment-là, donc c'était différent. Mais si, je me rappelle de la période où Clémence a cherché son appart et tout. Enfin, où je l'ai découvert quand elle a... Enfin, bref, je me rappelle de ce truc-là, la première fois que je suis arrivée dans son nouvel appart qu'elle a repris après Londres, parce que Caro avait gardé le même. Donc, je me souviens de cette nouvelle dynamique-là. En fait, pour moi, cette phase-là, elle est marquée par cet appart de Clémence. En fait.
Nouvel appart,
elle a gardé 6 mois. Et d'ailleurs, c'était dans cet appart que je me tombe le truc sur la tête de... bah, on voit avec Caro plutôt sur ce sujet. Là, je me dis aïe, aïe, ouïe. Donc,
j'ai fait une bêtise.
Ouais, voilà. Et en fait, si tu veux... En gros, franchement, Londres, ça a marqué aussi une dynamique nouvelle dans notre trio. Parce que bah, du coup, elles étaient hyper proches, mais il y a eu ce truc-là dont Caro parle. Après, elles étaient de retour à l'école. Moi, je bossais déjà. Et après, elles sont parties à Paris.
Parce que nous, on a commencé notre carrière pro, du coup, à Paris après.
Le passage obligatoire que toi, t'as voulu éviter.
Voilà, tout à fait. Et du coup, si là, ça a été un moment qui était un peu chaud pour moi, parce que pour le coup, toutes les deux, nouvelles parisiennes à Paris, machin.
Célibataire. Toutes les deux, à ce moment-là. Oh, bah voilà.
Donc là, il y a eu comme un petit gap quand on se revoyait, tu vois. Pas tant, parce que sur les sorties, sur les mecs, machin, c'est pas tant le sujet, mais le petit côté jeune parisienne qui, du coup, devient un peu piquée sur pas mal de choses. Moi, j'étais là, bon... Enfin voilà,
qui disent que tu habites en province aussi.
Non, mais tu vois, voilà, des petites histoires comme ça où tu parisianises un poil.
Au début, Paris, c'est génial, c'est parfait, c'est la ville de ouf. Et bon, 6 ans après, tu n'as plus le même discours. Mais c'est vrai qu'au début, on était un peu très... Ouais, Paris, c'est génial, quoi. C'est là où tout se passe. Ouais. Et ça, ouais, tu nous l'avais dit à un moment donné en mode bon...
Ouais, mollo. Oui, parce qu'en fait, je finissais par le prendre personnellement, tu vois. T'es une bouseuse, quoi. Enfin, tu vois, ça commençait à être un peu comme ça. Même si, bien sûr, c'était pas ça qu'elle voulait dire, mais voilà. Et puis ça, c'est assez. Ouais, parce que, voilà,
naturellement aussi.
Ouais. Et puis après, c'est devenu un truc complètement OK, parce que tu passes d'une relation hyper proche où t'es à l'école ensemble, donc tu connais absolument tout du ça, quotidien de l'autre. De toute façon,
tu
t'écris
tout le temps,
voilà.
Parce que mais même pour le moindre exercice, tu t'écris.
T'es au courant de toutes les petites histoires, les machins, les trucs. Et en fait, ça n'a plus existé à partir du moment où elles sont parties à Londres. Et en fait, bah, j'ai dû rapidement prendre mon parti de dire je ne serai plus au courant de leur quotidien comme c'était le cas depuis toujours. Et en fait, c'est le temps aussi qui passe et où tu vois que en fait, le lien persiste, où tu dis bah, voilà, fin, c'est ça la dynamique du trio et c'est OK, tu vois.
Ouais, parce qu'au final, si on retrace, vous avez fait 2 ans d'école toutes les trois.
Ouais, oui.
Et après, plus rien. Enfin, et malgré tout, ça fait 14 ans que ça dure, quoi. Donc, ces 2 années ont été hyper...
Ah bah, ça a fait des bonnes fondations sur une amitié.
Ça soude.
Alors que, justement, on peut se dire parfois... Enfin, alors, ça arrive, c'est pas le cas de toutes les amitiés, mais après l'école... Bah justement, la vie nous rééloigne parce que pendant qu'on est à l'école, on est tout le temps ensemble, on se parle tout le temps, on mange ensemble, on se parle sur les exercices et tout. et qu'en fait, quand on n'a plus ce lien à partager, bah, on n'a plus grand-chose à partager. Ou ça n'a pas du tout été le cas?
Non. Bah, y a eu un moment où on se donnait un peu moins de nouvelles. Mais en fait, dès qu'on se revoyait, dès qu'on décidait de se dire « Bon, allez, on va se faire un petit week-end à Nantes, on retourne chez Minette. » Bon, c'était comme en 40 et puis ça repartait nickel. Et voilà. Mais oui, on se donnait un peu moins de nouvelles, mais ça n'a jamais été un sujet de « Ah, elle ne m'a pas écrit depuis longtemps, ouais, ça y est, on est... » Non.
Ouais, puis sans avoir besoin, quand on se voit, de ressasser les souvenirs du passé.
Non.
C'est se créer de nouveaux moments aussi.
Non, ouais, on crée de nouveaux moments, on se racontait nos vies du coup qu'on avait loupées, mais sans rester dans l'époque de l'école. Ouais, de okay. Ouais.
Ah oui, non, franchement, on n'a pas du tout vécu dans la nostalgie de ce truc-là.
Donc, vous allez à Paris.
Oui.
On va faire un saut dans le temps, parce que je pense qu'après votre dynamique... Paris-Nantes reste relativement la même jusqu'au coup de grâce, on va dire.
Oui.
Le moment où vous apprenez que Clémence est malade. Racontez-moi comment ça s'est passé. C'était quand
C'était en septembre 2019.
En juillet.
Non, c'est en septembre le jour où... Parce que c'était en septembre quand on est... C'était en septembre quand on a fait cette journée-là.
D'accord, oui. J'ai remonté à avant, à la première crise.
Ah oui, d'accord. Bah, si tu veux.
Peu importe.
Non mais si, commence par le début.
Par le début. Elle a mal au ventre, elle s'en plaint beaucoup, ça dure longtemps, et vient un soir où vraiment hyper mal, hospitalisation, et après, je pense que ça a duré quelques semaines un peu dans le brouillard, je la fais très courte, les médecins finissent par lui dire maladie de Crohn. Ok, maladie de Crohn, bon, ça fait chier, c'est une maladie, tu vas vivre avec ça à vie, mais bon, au moins, on sait ce que c'est, et tu peux avoir un traitement un peu pour améliorer ta qualité de vie, etc. etc. Et il décide quand même de l'opérer pour enlever le bout de... dans le ventre
d'intestin
malade. Et arrive ce moment, du coup, de week-end de septembre.
C'est ça.
Où on avait l'habitude de se réunir en septembre et on se dit, on va se faire un week-end. Sauf que, bon, bah là, elle est hospitalisée, fait chier, on peut pas faire le week-end à Nantes. Donc, on va
Relou, elle peut pas sortir de l'hôpital.
Ouais, franchement, elle n'y met pas du sien. Et donc, on décide de faire une surprise et de faire ce week-end à Paris et d'aller la voir directement à l'hôpital.
C'est ça. Et on vient avec une copine, Virginie. Comme quoi, tu vois, les trios existent dans l'équateur aussi.
Ouais, ouais.
Et donc, Caro, c'était prévu qu'elle soit là, parce que Caro vivait à Paris à ce moment-là. Donc, voilà, elle rentre dans la chambre. Ben, dis donc, il y a du monde ici. Puis, elle ferme la porte derrière elle. C'était la première fois que nous, on allait voir Clémence à l'hôpital. Voilà, on savait, maladie de Crohn, on savait qu'elle venait de se faire opérer et tout. Et donc, moi, j'écoute derrière la porte et j'entends qu'il y a du monde qui arrive vite. Donc, je me recule. Et là, ils ouvrent la porte et c'est la famille de Clémence. Et moi, je fais chut, avec un petit sourire et tout. Genre, dites rien, c'est la surprise. Et moi, je suis tout sourire. Et en fait, j'ai pas des grands sourires en face de moi. Et donc, là, la mère de Clémence s'approche de moi, de nous. Je sais plus où était Virginie à ce moment-là. Et nous dit les nouvelles sont pas bonnes, c'est un cancer. Et donc, toi, t'es derrière la porte. T'es venue pour faire une surprise à ta pote. Tu sais que tu as ton autre pote qui vient de rentrer, donc qui est globalement en train de se prendre le même train que toi dans la tronche. Et il y a même ce truc complètement débile de, bon, on va rentrer du coup, genre chez nous, tu sais, on va pas faire la surprise, enfin, tu sais, c'est malvenu. Bon, bien sûr que non, mais tu vois, il y a ce moment de, putain, mais du coup, c'est pas une surprise, donc c'est quoi? Enfin, tu vois, du coup, il se passe quoi là? Et bon, bah, en fait, tu te poses pas la question longtemps, tu rentres dans la chambre et voilà, et du coup, bah, en fait, Clémence nous voit et dit, ah, vous êtes là, et donc là, elle s'effondre, sachant qu'entre temps,
ah bah j'avais le droit à la super nouvelle. Donc oui, effectivement, j'arrivais la bouche en cœur, il y avait toute la famille, je fais ma petite blague, il y a du monde là-dedans, mais je capte quand même une ambiance un peu pesante. Mais bon, voilà, et là, toute la famille sort, donc retrouve Lucie à l'autre bout du couloir. Et moi, donc, la porte se referme, je me retourne vers elle et je dis, bon, quand même, ta famille me connaît, pourquoi ils sont tous partis comme ça d'un coup?
J'ai plombé l'ambiance.
Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, voilà, les nouvelles sont pas bonnes. Une extrêmement forte à ce moment-là, pas de pleurs. Mais à partir du moment où elle me dit, c'est peut-être un cancer, là, moi, je m'effondre. Et après coup, je me suis dit, mais... T'aurais pas dû. Enfin, le mot cancer, ça veut pas dire que mort. À l'époque, on pensait, on avait l'espoir. Et je me suis dit, putain, tu viens de montrer à ta pote que ça va pas, quoi. Que voilà.
C'est pas une bonne, c'est vraiment
pas une bonne nouvelle, ouais. Et donc voilà, donc je m'effondre. Elle me réconforte. Le monde à l'envers. Et ça dure peu de temps parce que je sais que Minette est derrière avec Virginie et qu'il va falloir que je les fasse rentrer parce que. Moi, je savais pas
Toi, t'avais organisé toute une surprise et
ouais,
tout.
Voilà.
Il n'y avait pas ça dans...
C'était pas le plan.
Ouais. Non, voilà. C'était un peu compliqué.
Plus sympa, le plan. À la base.
Et donc, je sèche mes larmes. Et donc, j'ouvre la porte. Et là, on switch, en fait. Elle rentre et moi, je sors. Et là, je m'effondre dans les bras de sa maman. Et je dis, c'était quand même vachement mieux, la maladie de Crohn. À ce moment-là, ton humour, il sort Bizarrement.
Tu sais plus si c'est
mais
drôle.
Mais ça a toujours été le cas pendant tout le temps. Hein. Franchement, de faire des vannes sur son cancer, ça aurait été une constante absolue. Quoi.
Même elle, par exemple, tu sais, elle arrivait dans un appart, tout le monde est déjà sur le canapé. Bah, c'était elle qui va dire, bah, par contre, c'est moi qui ai un cancer, donc quelqu'un va bouger son cul et laisser sa place. Tu vois.
Ou quand il y avait des moments où elle commençait à faire des vannes et qu'elle nous mettait mal à l'aise, ou des trucs comme des vannes qui n'ont rien à voir avec le cancer, ou qu'elle faisait un truc qui pouvait paraître saoulant ou quoi. C'était des moments où il y avait des améliorations, qu'elle nous avait amené ses radios, qu'il y avait des améliorations, et c'était des trucs que je pouvais lui dire, genre, t'es sûr que ça va mieux ton cancer? Parce que, bon, tu vois, ce serait bien que tu traînes pas trop dans les parages. Donc voilà, vraiment, on a pas hésité à faire des vannes sur le truc, parce qu'en fait, ça aide aussi à...
Et puis notre amitié a toujours été comme ça, on se vanne. Oui, bah c'est clair. On se vanne pas méchamment, mais
en fait, le début, c'est se prendre le choc, digérer le choc, et après, ben, rester... digne, j'ai envie de dire, peut-être pour que l'amitié reste la même, parce qu'en fait, les gens ne changent pas. C'est la vie.
Et ça, c'est
autrement,
hyper dur. Moi, ça a été hyper dur de justement où je place le curseur de la vie continue. Mais en même temps, c'est quand même une vie compliquée pour toi en ce moment, ma biche. Donc ça, c'était dur de... À quel moment je peux parler de mes petits problèmes quotidiens, alors que, bon, voilà.
En comparaison...
Ouais, ça, c'était pas évident pour moi. Et je pense, avec le recul, je l'ai pas hyper, hyper bien géré.
Mais comment, vous en avez parlé avec elle?
Bien sûr.
Ouais, oui, je pense.
De ça, en fait, moi, je sais plus comment te parler de mes problèmes de merde, de...
Par écrit, moi, je l'ai fait.
Et comment elle a réagi?
Je t'avoue.
Je te souviens pas.
Ouais, non, elle a dû me dire, en fait, fais comme d'habitude, tu vois.
Bah ouais.
Mais...
Moi, j'avais évoqué un truc comme ça avec elle une fois, mais c'était pas sur ce truc-là, c'était le côté, tu sais, on vient et on sourit. Et du coup, je lui avais écrit en lui disant, je voulais juste te dire, ma biche, c'est pas parce que quand on vient te voir qu'on est tout sourire et machin, etc., que tout ce qui se passe, ça nous atteint pas. Mmh. Et elle avait dit, non, mais ça me va très bien, en fait, je veux pas aller voir, je préfère que ça se fasse comme ça, quoi, je veux pas aller voir vos larmes. Et bien sûr que j'ai pas de doute, mais voilà, ça me va très bien comme ça, en fait. Vous sentez surtout pas obligé d'avoir à me démontrer que ça vous fait de la peine, en fait.
En même temps, c'est dur, parce que si elle vous dit « j'ai pas envie de voir vos larmes », c'est-à-dire qu'il faut se blinder avant d'aller à l'hosto, quoi.
Oui, non, parce qu'elle avait une facilité à t'accueillir. Alors, ça dépendait des moments, effectivement. Des moments dans son traitement, des moments... Mais de manière générale, t'allais voir une copine. Oui, elle était dans un lit d'hôpital, mais t'allais quand même voir juste ta pote et elle te posait des questions et elle te racontait des trucs. Elle disait « Ah non, mais attends, là, il y a eu un super BG qui m'a fait une prise de sang. » Elle arrivait toujours à te... C'était une joie de vivre. Donc, donc, c'était pas si difficile que ça.
Quand on était avec elle.
Ouais.
Pas du tout.
Ouais, c'est plus après quand tu te retrouves chez toi toute seule et que tu réalises que ces moments-là, ils sont hyper chouettes parce que c'est plein de joie et plein de bonheur. Mais qu'en fait,
Derrière, il y a...
Et donc là, encore une fois, deux dynamiques différentes, parce que Caro était très présente au début, jusqu'à un certain point, et on en reparlera. Moi, j'étais à Nantes, donc pour le coup, très peu présente, sachant que Clémence était extrêmement entourée, parce que là, on parle de notre amitié à toutes les deux et à toutes les trois. Mais Clémence avait énormément d'amis, et il y a plein d'amis qui ont été là, mais quasiment tous les jours. Donc vraiment aussi parler d'eux et... Parce que vraiment, je pense que ça n'aurait absolument pas été la même chose pour Clémence s'il y avait eu que nous deux.
Ouais, dans les différents services qu'elle a traversés, clairement, c'était toujours celle qui avait la chambre pleine, tout le temps.
Clémence, c'est plein d'histoires d'amitié. Nous, là, on parle de celle qui nous lie toutes les trois, mais voilà, y a plein d'autres gens autour et ça, c'était quand même hyper cool pour elle. Quoi.
Et vous, pendant ce moment-là, votre vie, j'imagine qu'elle bascule, alors au-delà de basculer émotionnellement, de se dire, quand vous vous voyez qu'avec elle à l'hôpital, ou est-ce que vous continuez à avoir une relation toutes les deux en dehors de l'hôpital, ou pendant toute cette période, c'est vraiment que Clémence, ce qui se comprendrait, ce qui serait totalement légitime, mais...
Non, c'était que Clémence, parce que moi, j'habitais à Paris, et Clémence aussi, donc hospitalisée à Paris, quand Minette, elle était à Nantes. Donc, on se voyait pas que toutes les deux.
Après, il y a une courte phase où t'es arrivée à Nantes avant de partir à l'étranger.
J'ai redéménagé, effectivement. J'ai quitté Paris parce que mon époux habite à Nantes. Donc, j'en avais marre de Paris. Donc, je me suis dit, allez, je me casse et je pars vivre avec lui.
Et du coup, là, à ce moment-là, on s'est...
on s'est retrouvés, entre guillemets, retrouvés un peu. Géographiquement parlant,
On m'a cassé les couilles, d'ailleurs, parce que... Parce qu'elle revient, moi, je suis trop contente, et elle se rebarre, je suis là, vas-y, je préfère même pas te voir.
Oui, c'est du coup un peu compliqué tout ça, mais en juillet 2019, en août 2019, je pars avec mon mari pendant un an en voyage autour du monde. Voyage qui était prévu depuis 2 ans. Sauf qu'avant le grand jour du départ, la petite Clémence nous fait une rechute. Et donc là, j'interroge toutes les copines proches, est-ce que je dois partir? Et tout le monde me dit, oui.
Bien sûr.
Sinon, ça lance le message, j'attends que tu décèdes.
Voilà,
l'horreur. Mmh. Donc, je pars.
Avant de continuer sur cette histoire, moi, j'ai une question sur le moment où tu déménages de Paris à Nantes.
Ouais.
Bah, j'imagine que tu en parles avec Clémence comme tu changerais de ville habituellement. Sauf que là, est-ce que toi, au fond de toi, il n'y a pas un truc de « je l'abandonne » ?
Si. Bah d'ailleurs, je pense que c'était la dernière au courant. Ah ouais. Je ne peux pas lui dire. Si, compliqué, bah compliqué parce qu'en plus, la maladie, etc. Mais en même temps, ça faisait 3 ans que j'étais avec Jérôme. À ce moment-là, elle le connaissait, elle l'aimait bien. Enfin, voilà, il n'y avait pas de sujet. Donc, elle n'allait pas non plus me dire, bah non. Tu vois, c'était l'étape normale d'après d'une vie de couple. J'ai pas le souvenir que ça soit fait. Si, l'annonce a été compliquée. Enfin, moi, j'appréhendais beaucoup et je suis quasiment sûre qu'on a chialé. Mais c'était la vie. Puis en fait, elle avait d'autres chats à fouetter. Hein, mine de rien, quand t'as le recul là-dessus, elle était un peu occupée à se battre contre le cancer. Donc bon, c'était un peu le cas
des soucis. Est-ce qu'il y a des moments où vous... Alors, je pense qu'elle l'a jamais exprimé. Enfin, je la connais pas, mais qu'elle vous en voulait finalement de vous continuer à vivre alors qu'elle était bloquée dans un lit d'hôpital.
Oui, je pense qu'il y a des moments où elle a ressenti ça. Et c'est légitime pour moi.
Ouais, je pense qu'il y a des moments... Enfin, c'est pas nous en vouloir, mais c'est être en colère contre
ouais.
ça.
Ouais.
C'est pas nous en vouloir à nous. Je pense pas. Enfin, franchement, je serais très étonnée. Ou alors quand ça peut être des trucs, peut-être qu'elle peut prendre personnellement. J'en sais rien. Elle était censée venir me voir à l'hôpital. En fait, elle vient pas parce qu'elle a une soirée. Mmh. Là, du coup, t'as un peu ce double effet de ça me prive, moi, de la voir. Et en plus, c'est parce qu'elle a un truc cool que moi, je peux plus faire. Là, ça, dans ces moments-là, ça a pu arriver. Mais c'est humain, tu vois. Mais par contre, oui, la colère de...
Ouais.
Ouais, ouais.
Dans l'absolu, forcément. Enfin, forcément.
Mm. Et du coup, vous privez, vous, de partager des moments de grande joie ou de grand bonheur ou pas du tout ?
Non, moi, j'ai pas le souvenir là.
Non, je crois pas. Franchement, je crois pas.
Donc, toi, le rythme, c'est quand t'étais à Paris, tu la voyais quasiment tout le temps ?
Ouais. Bah, en fait, c'est... Au lieu de... Comme disait Minette, elle avait plein d'amis autour. Donc, au lieu de tous se retrouver entre potes au bar, eh ben, en fait, on se retrouvait tous autour de son lit d'hôpital. Et c'est venu très naturellement. C'est ce soir, on se voit, ouais. Bon, bah, rendez-vous à la chambre des Clémence, quoi.
Les bières, les chips, c'est.
Ouais, il n'y avait pas les bières, mais il y avait les chips en tout cas, ouais. Ouais, c'était. Il y avait même des soirées.
Vous avez parlé d'alcool à l'hôpital ? Vous avez jamais fait ça ?
Bon, si, je sais plus. Mais je me souviens que c'était à l'époque de Danse avec les stars. Et c'était le truc de. Bah, vas-y, c'était le vendredi ou le samedi, je ne sais plus. C'était
ouais. Une fête, je pense. Ouais.
Et c'était samedi soir. On était très tolérés à l'hôpital parce que normalement, c'était.
Ouais, normalement, il y a des heures de visite ouais. quand même.
Alors, à un moment donné, ça finit par gueuler un peu. Mais c'était samedi soir, Danse avec les stars. Et des fois, au tout début même, il y avait des roulements où on dormait avec elle. Jusqu'au moment où là, par contre, il y a les infirmières qui nous ont dit.
Ouais, et en même temps, là, c'est un peu... une jeune de 25 ans.
Un peu plus 8.
28. Ouais. Enfin, tu vas pas lui dire, tu passes ton samedi soir toute seule, alors que tous tes potes ils ouais. sont en train de sortir. Bah non, vaut mieux que les potes ils sortent avec.
Et puis on
toi,
faisait pas le bordel non plus. Enfin, ouais, rester ouais. dans la chambre, oui, peut-être qu'il y avait des éclats de rire à un moment donné, mais on n'était pas non plus en train de mettre la musique et danser dans sa chambre,
ouais.
quoi.
C'est sûr.
Oui, tout donc, en respect du lieu dans lequel vous étiez.
Ouais.
Quoi.
Mais du coup, on était hyper tolérés, donc du coup, on faisait beaucoup de moments entre potes. Sauf que ouais, effectivement, au lieu d'être attablés au bar, on était dans sa chambre, quoi.
Mais il n'y avait pas aussi un peu ce truc où, comme du coup, ses parents et notamment Françoise, sa mère, étaient beaucoup là toute la semaine, du coup, le week-end, un peu, vous preniez d'une certaine manière le relais parce que vous étiez dispo. Non, il n'y avait pas une sorte de truc un peu comme ça.
Bah, on était dispo parce que c'était le week-end aussi.
Oui, oui, oui.
Mais il y a plein de fois où Françoise faisait les soirées avec nous. Hein.
Bah ouais.
Bah ouais.
Du coup, ça a créé des relations.
Françoise, c'était notre deuxième maman aussi pour nous tous à ce moment-là.
C'est ce que je me rappelle de moments où vous parliez de trouver des manigances pour la pousser un peu dehors, qu'elle aille prendre
pour
du s'aérer. Temps pour elle.
Ouais. Par contre, oui, ça, oui. Qu'elle aille à des expos, qu'elle aille au ciné, mais...
C'est hyper dur. Hein.
Pour lui donner aussi un peu une bouffée d'air, ouais. Mais je me souviens son anniversaire, le
29e.
Non, parce que j'étais pas là celui-là. Donc le 28e.
Hein, t'étais pas là au 29e.
Non, son dernier anniversaire, j'étais en voyage moi du coup. J'étais
t'étais
pas là.
Déjà partie. Ah, oui,
donc c'était celui d'avant où elle a fait. Elle n'était pas encore hospitalisée tout le temps. Elle faisait son traitement de chimio et donc du coup elle fait soirée chez elle à Paris. Et quand, je me souviens très bien, quand tout le monde, un par un, rentrait dans l'appartement, la première question, c'est « Elle est où, Françoise ?» Et chaque fois, il me répondait « Oui, quand même, c'est mon anniversaire, je dois faire ça avec mes potes. » Mais tout le monde a dit « Mais il n'y a pas Françoise. » Tu vois, pour te dire à quel
je
point
peux
Françoise
être sans mes parents un petit moment.
Était là, quoi. Elle faisait partie du groupe.
C'est vrai. Et donc,
toi, tu la voyais une fois par semaine, c'est ça, ouais, que tu disais le mardi.
Ouais, c'est ça. Le mardi, j'avais rendez-vous. J'étais encore en agence de com à ce moment-là et j'avais rendez-vous avec un client tous les mardis. Et du coup, j'arrivais un peu plus tôt fin de mat pour passer la pause de midi et deux avec elle.
Ça devait être même difficile, je me dis, parce que quand tu as un rythme régulier comme ça, où tu sais que le mardi, c'est Lucie qui vient te voir, que tout ça, quand c'est les vacances, je me dis, d'un coup, tu dois te sentir... parce que les gens, ils partent, quoi. Enfin, ou vous êtes pas parti en vacances pendant toute cette période-là.
Non, mais franchement, il y avait tellement du monde tout le temps. En vrai, c'était plus galère de trouver des créneaux où il y avait personne. Non, mais sans rire.
Bah, après, il vaut mieux que ce soit comme ça.
Non, mais tu vois, sans rire. Le nombre de fois où on disait, ah bah non, mais là, tu peux pas venir parce qu'en fait, il y a un tel qui vient, puis il y a un tel qui vient. Puis... Donc, si tu veux, fallait prendre
elle
rendez-vous.
Elle était pas épuisée,
quoi. Je crois pas, franchement. Ouais. Enfin, sur la fin, sans doute. Ouais. Mais je pense
mais sinon,
que
c'est chiant, tellement. Franchement. Ouais.
Au début, je pense que ça a longtemps pas été un problème jusqu'à ce que ça devienne une fatigue, tu vois, genre physique, quoi. Mais je pense que ça l'a porté aussi tellement. Enfin,
ouais.
Peut-être et... Françoise aura un autre avis là-dessus. Mais...
Et donc, tout le monde te dit, go, envole-toi pour le Japon.
Le tour du monde. Hein,
tour du monde. Ah non, je sais pas pourquoi j'avais le Japon. Okay.
On a commencé
go,
en Asie.
Go, envole-toi,
ouais.
Tour du monde, c'est super. Sinon, elle va juste avoir le message que t'attends qu'elle meure, quoi. Ouais. Mais il faut quand même lui dire à Clémence.
Ah, ça, elle savait aussi. Comme c'était un projet depuis 2 ans.
Okay.
C'était acté,
ouais,
elle
donc
savait.
Quand tu pars, pour elle, c'est ok, c'est normal que tu t'en ailles.
Bah c'est oui, c'est ce qui était prévu,
ouais,
vois,
ouais.
Tout, ni plus ni moins. Mais par contre, je pars en disant à toutes les filles du groupe, s'il y a le moindre truc, vous m'appelez, je saute dans un avion et j'arrive. Je veux être là, si ça tourne au vinaigre.
T'arrives à profiter un peu de ton voyage?
Oui.
Parce que en partant, en ayant eu les résultats 2 jours avant, la veille, que ça va.
Ouais, un peu plus quand
rechute,
même, mais okay. Ouais. Oui, parce que même si du coup elle repart sur un traitement, elle repart en chimio, elle n'est pas encore hospitalisée à plein temps.
Ouais, et les médecins sont toujours optimistes.
Ils lui disent qu'elle vivra avec la maladie. Ils lui disent plus on va te guérir. Maintenant, c'est bon. En fait, on a fait le traitement de chimio, on l'a arrêté, on pensait que ça allait mieux, il y a eu rechute. Donc maintenant, c'est OK. Tu vas vivre avec la maladie.
Okay.
Ça sera toujours là, mais ça va aller, entre guillemets, le aller, quoi.
Bah là, en fait, il y a vraiment un tournant à ce moment-là. Et c'est fou parce que c'est un tournant, mais qui correspond, pour le coup, dans notre amitié, à un vrai tournant. Parce que donc, Caro et Jérôme partent en tour du monde. Clémence, à ce moment-là, elle a hyper bien répondu au protocole de chimio. Tant et si bien que les médecins disent, bon, bah là, on te fout la paix pendant les mois d'été. Tu fais tes vacances. Et je ne sais plus si c'était septembre-octobre,
ouais.
On fait une chirurgie exploratoire. Ils ont appelé ça comme ça. En gros, on ouvre et on voit quel est l'état du bazar, quoi, tu vois. Et en fonction, on avise. Mais sachant que dans les options, il y avait, en fait, on ouvre, tout va bien, on te reboot, parce que malheureusement, elle était passée par cette étape d'avoir un bout d'intestin en moins, donc ces histoires de poche qui font vraiment plaisir quand tu as 28 ans. Donc, si tu veux, là, c'était vraiment le... Enfin, nous, on était au max à ce moment-là. On est au max. Clémence, les nouvelles sont bonnes. Il y a cette... Parmi les options possibles, il y a quand même une option de guérison. Enfin, tu vois. Donc là, nous, on est toutes au max. Ça correspond au fait que Caro fait une fête pour son départ en tour du monde avec Jérôme. Et cette soirée d'anthologie. Mais un truc exceptionnel. Moi, bon, ça a créé des petites histoires dans le...
dans mon couple.
Dans le couple de Caro.
Parce que ça aurait été tellement bonne que du coup, je ne l'ai pas passée avec mon cher Ethan alors que c'était notre soirée de départ.
Vous alliez pas passer un an ensemble en tour du monde.
Oui, mais en fait, il se trouve que du coup, il y avait un truc un peu mélangé parce qu'ils avaient tous, ils avaient fait venir leurs amis. Et donc, dans leurs amis, il y avait aussi toutes les potes de Caro et donc Clémence machin. Et en fait, il y a un truc un peu magique qui s'est créé où tout à coup, en fait, les nanas se sont... je sais pas, on a fait bloc en fait autour de Clémence, autour de Caro. Et puis il y avait aussi ce truc, c'était la première fois que Clémence, elle s'autorisait à nous dire à quel point on avait chié en fait dans tout ça. Parce que là, ça y est, pour elle, c'était derrière elle, tu vois. Donc on passe une super soirée avec un petit moment, un petit interlude où là, pour le coup, elle craque, elle dit voilà, ça a vraiment été dur et tout et tout. Mais nous, on est, mais tu vois, c'est super, tu l'as fait. Donc là, on est au max. Donc franchement, ça nous prend 20 minutes dans la soirée. Il est déjà 2h30 du mat et on a déjà fait 12 soirées, je pense, en une à ce moment-là. Et en fait, c'est vraiment la soirée improbable où tu vas de soirée en soirée, tu rencontres du monde, tu croises du monde, tu finis dans un appart, il y a 15 personnes que tu... Enfin, le truc exceptionnel.
On finit à 8h du mat.
On finit à 8h du mat.
Voire même plus, ouais.
Ouais, ce qui n'arrive jamais parce que moi, j'ai la réputation d'aller me coucher à 22h. Donc voilà. Ouais, il y a un truc magique, quoi. Et en fait, quand tu sais ce qui s'est passé derrière... Tu dis, bah, en fait, ça ne s'est pas passé pour rien. Enfin, ça ne s'est pas passé comme ça pour rien, quoi. Parce qu'en fait, vraiment, c'est, je ne sais pas, quelques deux semaines après, trois semaines après.
Elle refait une rechute, ouais.
Elle retourne à l'hôpital. Ouais. Elle retourne à l'hôpital et même elle m'envoie une photo d'elle avec sa sonde nasogastrique. Photo que j'ai déjà reçue 12 500 fois, tu t'en doutes, dans les trucs d'avant, notamment avec des grimaces. Et là, elle m'écrit « Back to last summer ». Et donc moi, je crois, quand elle m'envoie ça, que c'est une photo où elle me dit « Regarde le chemin parcouru ».
Ouais, pas qu'elle dit
genre,
là,
souviens-toi l'été. Ouais, c'est ça, souviens-toi l'été dernier. Même si je capte qu'il y a un problème avec les lunettes, parce que les lunettes, c'était des lunettes neuves qu'elle avait, elle les a, mais c'est mon cerveau, il veut pas capter ça.
Ouais, ouais.
Et donc, moi, je lui réponds dans ce sens-là, tu te rends compte, ma biche, tout ce que t'as fait, nanani, nanana. Elle me dit, non, je crois que t'as pas compris, je suis de retour à l'hôpital. Et là, je me suis dit. Et donc là, ben, effectivement, quand tu dis, au bout de trois semaines sans chimio, tu refais une occlusion, c'est que le truc est quand même un peu énervé, quoi. Donc, à partir de là, vraiment, ben, parce que, et du coup, que Caro s'envole à ce moment-là, donc il y a vraiment un tournant, quoi. Enfin,
ouais, tu prends le relais, quoi.
Bah, je prends le relais
en étant à distance
du trio, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Du coup, c'est moi qui suis là où ça a toujours été Caro qui a été plus présente du trio. Du coup, c'est moi qui suis plus présente, mais qui suis infiniment moins présente que tous les autres. Mais oui. Bah, en tout cas, en présence physique, à ce moment-là, plus en tout cas.
Tu t'envoles.
Oui.
Quand tu vas revenir en France, elle sera plus là.
Alors. Deux étapes à ça.
Ah, ok.
Ouais, donc comme je te disais, je pars en disant aux filles, s'il y a le moindre truc, vous m'appelez. Elle m'appelle.
Elles avaient respecté la consigne.
Oh, oui. Elle m'appelle après son anniversaire. Donc, toute fin novembre, début décembre, elle m'appelle en me disant, voilà, là c'est compliqué, on la voit, c'est un petit feu, il faut que tu rentres. Donc, je prends un avion, je rentre, j'arrive, et je découvre une Clémence très faible, mais qui, au fur et à mesure des journées, dis donc, reprends les poils de la bête.
Oh bah ça valait pas la peine de rentrer. Hein.
Super.
Tout ça pour ça.
Le prix du billet. Donc non, moi je suis quand même très ravie d'être là. Je passe des nuits avec elle. Voilà, on recrée un petit truc un peu intime, même si c'est extrêmement temporaire parce que je dois rester une semaine et demie. Mais je repars en me disant, pouh, elle est encore en vie. Elle va encore tenir longtemps la petite mère. C'est génial. Donc, je repars un peu pleine d'espoir, en ayant profité d'elle aussi, un peu regonflée. Voilà, j'ai regonflé ma petite jarre de Clémence qui s'était vidée au fur et à mesure des mois d'absence, quoi. Donc, je repars comme ça. Et là, je ne capte pas les signaux qu'on m'envoie fin janvier, début février, où déjà, donc, elle passe en soins palliatifs et je ne capte pas que tu ne restes pas 6 mois en soins palliatifs. Voilà. Il y a « je ne capte pas » et il y a « je ne pose pas la question ». Et du coup, on ne me le dit pas clairement non plus. Tu vois, il y a ce truc aussi de « je fais l'autruche, je ne veux pas qu'on me le dise oui, ». Du coup, on ne me le dit pas non plus vraiment, tu vois.
Oui, c'est « tu ne captes pas et sans doute, tu ne veux pas capter ».
Voilà. Et au fur et à mesure, il y a quand même des signaux, des filles qui me disent « non, mais ça serait bien que tu rentres, elle parle beaucoup de toi en ce moment, etc. etc. » Je ne capte pas. Et vient une semaine où, précise, où là, j'ai une de mes potes qui me dit « écoute, je vais être honnête avec toi, quand je l'ai prise dans les bras en partant de l'hôpital l'autre jour, j'ai senti la mort. Donc, il faut que tu rentres. » Et c'est ce texto-là où je me dis « ok ». Donc, je prends mon billet d'avion pour le lendemain. Je pars. Donc là, alors, elle ne pouvait pas le faire le mieux en termes de temporalité parce que c'était la période où j'étais la plus loin. J'étais en Australie. Je ne pouvais pas être plus loin.
Ah oui, ton trajet, mais ça devait être un trajet horrible pour toi.
Non, il a été très sympa, ce trajet.
Écoute, vraiment, c'était nickel. Je le conseille à tous ceux qui aiment prendre l'avion. Donc, je prends mon premier avion, la boule au ventre. J'arrive en escale. Et là, en escale, je rallume mon téléphone, comme toute personne sensée qui s'atteint du mode avion. Et je reçois le texto d'un copain, mais éloigné, avec qui on avait dû papoter 3 mois avant, juste parce que j'avais posté une photo sur Insta. Et donc, il m'avait dit « Ah, mais du coup, t'es en voyage. Enfin, » tu vois, personne lointaine. Sympa, mais lointaine, tu vois. Et qui m'envoie juste « Je pense à toi, cœur. »
Alors que tous les autres, ils avaient pris la peine d'attendre que t'arrives.
Oui. Et là, j'appelle tout le monde. Personne ne me répond. J'envoie des textos à tout le monde en mode « Pourquoi personne ne me répond ?» Et la minette daigne me répondre et s'en prend plein la gueule.
Ça me tombe sur la gueule.
Bah ouais, mais il faut s'en prendre à quelqu'un.
Ouais.
Enfin, oui. J'imagine que tu n'en es pas forcément consciente à ce moment-là, mais...
Si, si.
C'est...
Mais en plus, elle-même à la fin de la discussion. Ouais, ouais. Mais parce que, donc, pour raconter l'histoire de mon côté, ce qui se passe, c'est que, donc, moi, du coup, je sais, Clémence m'annonce qu'elle va aller en soins palliatifs, etc.
Juste
etc.
pour ceux et celles qui ne sauraient pas, soins palliatifs, ça veut dire que tu arrêtes le traitement.
Ouais, en fait, c'est pour t'accompagner en fin de vie dans le moins de souffrance possible.
Ouais.
Enfin, tu ne sors pas de soins palliatifs autrement que décédé.
Ouais, ouais. Okay.
Enfin, voilà, c'est vraiment de l'accompagnement à la fin de vie. Du coup, elle m'annonce, enfin avec sa mère. D'ailleurs, c'est même plus sa mère qu'elle parce que elle en avait. Je pense qu'elle avait passé sa journée à annoncer ça à tout le monde et elle n'en pouvait plus. T'imagines le genre de journée que tu passes quand tu fais ça. Donc sa mère me l'annonce. Bon, c'est une nouvelle horrible, mais c'est pas le scoop de l'année. On voit, on sait. Bref. Et donc, je vais la voir, je continue à aller la voir tous les mardis. Donc, je vais la voir une fois, deux fois, et arrive le mardi, le fameux mardi. Et en fait, j'arrive ce matin-là, et il y a son père qui est au téléphone, ou je ne sais plus si sa mère, bref, peu importe. Et je veux rentrer dans la chambre, c'est une chambre où il y avait un hublot. Donc, en fait, tu voyais, donc, tu voyais Clémence à ce moment-là, et il y avait une chaise, bref, un grand fauteuil de dos. Donc, je n'arrive pas à voir s'il y a quelqu'un assis sur le fauteuil. Donc, je veux y aller pour aller la voir, et je crois que c'était son père qui était là au téléphone et qui me dit non, rentre pas. Voilà, et puis il m'explique, il me dit là, c'est très, très, très compliqué. Elle a une nuit très compliquée. Enfin, bon, bref, c'est une question d'heure, jour. Ok, bon, tu dis bon, ok, moi, je n'étais pas partie là-dessus, mais bon, je suis là. Donc, voilà. Sachant que je suis entre deux réunions, moi.
J'étais en train de me dire le client après.
Non, mais le truc complètement.
Comment tu vas le voir dans quel état ?
Complètement con de la vie. Enfin, tu te rends compte, le truc ubuesque, quoi. Là, si tu veux. Ton taf, tu prends un petit recul sur les choses quand même. Et donc, je rentre dans la chambre. Elle était à moitié comateuse. Elle me voit, elle me dit « Ah, Minette, j'avais zappé que tu venais et tout, machin. » Je dis « T'inquiète, ma biche, hein, vraiment, pas de souci. » Et en fait, il y avait donc sa mère ou son père, j'arrive plus à me souvenir, qui était là. Et je leur demande s'ils peuvent nous laisser quelques minutes. J'ai appris après et du coup, je m'en suis voulu qu'ils venaient juste d'arriver. Moi, je savais pas, tu vois, j'arrive tard. Mais bon, bref, je sais pas, il y a ce truc hyper instinctif où je demande quoi. Je lui prends la main, machin et tout. Enfin, je sais que je suis en train de dire au revoir. Enfin, je me doute que je suis en train de dire au revoir à ce moment-là. Mais en fait, je vois qu'elle est en train de galérer un peu à vouloir rester réveillée. Tu sais que ça lui prend de l'énergie. Donc, je me dis, ça sert à rien, ça n'a aucun sens. Je vais m'en aller, tu vois. Donc, je dis, bon, ma biche, moi, je vais te laisser. Et en fait, à ce moment-là, elle m'a ouvert les bras. On s'est fait un gros câlin. Et là, on a pu se parler un petit peu pour pas aller trop dans les larmes. Voilà, on s'est dit que. Enfin, moi, je lui ai dit que j'aimerais toute ma vie, etc., etc. Et que j'allais me faire tatouer aussi. Je lui ai dit ça. Et elle a voulu vomir à un moment. Voilà, comme ça, on va s'en sortir. Elle a voulu vomir à un moment. Donc, j'étais en train de lui faire ma déclaration d'amour. Et pour ça vous expliquera bien qui était Clémence. Elle se relève, elle a envie de vomir. Moi, je chope le haricot et en même temps, je suis en panique parce qu'elle est dans un tel état. À ce moment-là, je me dis, mais là, si elle vomit, je sais pas dans quel état ça va la mettre, parce que vraiment. Mais bon, je suis là, je jette un peu un coup d'œil au hublot et j'espère vraiment qu'elle va pas vomir, tu vois, parce que ça me fait paniquer. Mais bon, je suis là, je suis avec elle. Et en fait, elle a sa tête entre ses mains. Et elle me dit, putain, t'as vu, franchement, t'es en train de me faire une déclaration. Et voilà, moi, j'ai envie de vomir. Je lui dis, de toute façon, t'as passé ta vie à me chier à la gueule. Donc. Ça s'est vraiment passé comme ça. Et voilà, j'ai dû lui refaire un bisou et puis je suis sortie de la chambre et voilà, et j'ai eu cette chance. Et en fait, c'est ça qui est un peu doux amer dans cette histoire, c'est que les gens qu'on aime, il y a plein de moments où ils s'en vont et où en fait, on n'a pas cette opportunité-là. On n'a pas non plus cette opportunité-là d'avoir des discussions comme j'ai eu avec Clémence parce que ce moment où tu sais où elle sait qu'elle va partir et où t'en parles en fait. À la fois, c'est hyper violent et en même temps, il y a un endroit de joli. Je sais pas comment dire, je veux pas avoir l'air que ce soit odieux pour des gens, tu vois, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et avoir la chance de. Enfin, moi, je l'ai vraiment pris comme une vraie chance de dire au revoir, quoi. Et voilà. Et donc, voilà, c'était. Donc, voilà. Donc, je vis ça. Parce que voilà. Et parce que coup, le rendez-vous derrière.
Après ça, toi, tu sais que Caro est dans l'avion.
À ce moment-là, je sais pas qu'elle est dans l'avion.
Non, ok.
Je crois que tu rentres dans l'avion quelques temps après, je sais plus. Mais
toi, tu lui dis au revoir et elle décède combien de temps après ?
Et bah, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que je lui dis au revoir. J'ai une cliente hyper cool à ce moment-là qui était au courant de la situation et qui avait vécu la même chose pas peu de temps avant. Donc, je l'appelle, je lui dis, je suis à l'hôpital. Elle m'a dit, j'ai compris, prends ton. Enfin, t'inquiète, on se voit plus tard. Je pose un. Quand même, bon élève, hein. Un demi-RTT derrière, bref. Parce que là, il est hors de question que j'aille ailleurs qu'à l'hôpital. Enfin, en fait, même si je ne vais pas rentrer dans cette chambre, je reste là. Et il y a ce truc un peu magique qui se met en place. Je fais partie, franchement, des chanceux. Et pour le coup, c'est un peu abusé parce que je n'ai pas été la plus présente, mais je suis juste arrivée au bon moment. Je fais partie des chanceux qui ont pu avoir cet échange-là. Parce qu'après, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ils ont dit, non, mais là, plus personne ne rentre dans la chambre.
Parce qu'elle était trop fatiguée,
ouais. Ouais, je comprends, mais en fait, tu vois, d'un point de vue extérieur... Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre... Bon, peut-être qu'il y a des trucs qui m'échappent, mais de toute façon, c'est la fin, donc je sais pas. Est-ce qu'il
oui,
vaut mieux qu'elle
fatiguée autant
ouais,
être fatiguée
tu vois, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle laisse, je sais pas. Bon, peu importe. Et du coup, en fait, tout le monde commence à arriver, tous ses potes là dont je parle, sans en parler et sans les nommer un par un, mais et là, je parle d'une dizaine de potes. Enfin, c'est quand on dit hyper entouré, c'est hyper entouré, qui arrivent tous en fait à l'hôpital. Et en sachant qu'ils n'allaient pas forcément venir la voir, mais on y avait cette espèce de besoin de,
ouais,
d'être tous ensemble.
D'une unité, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis auprès de ses parents et tout et tout. Et donc, je reste, moi, jusqu'à 21h30, le dernier train, pour rentrer à Nantes. Donc, je fais ça. se passe, donc là on est le mardi, se passe la journée du mercredi. Le mercredi, je garde ma filleule. Et vers 19h30, Lola, une copine qui m'appelle et qui me dit, voilà, elle est partie, elle est partie vers 19h, enfin je sais plus. Elle est partie dans ces eaux-là. Et on me dit, tout de suite derrière, Caro est dans l'avion, on ne lui dit rien, on a décidé qu'on ne lui dirait rien, ça va être trop violent pour elle que d'avoir l'information avant de pouvoir avoir quelqu'un qui va la prendre dans ses bras. Mm. Bien sûr, je suis d'accord. Je dis, bien sûr. Sauf que moi, et en plus à l'époque, j'utilisais quasiment jamais WhatsApp. Et donc, sauf que Caro m'écrivait par WhatsApp. Et j'avais zappé le côté, on voit que t'es en ligne. Donc, si tu veux, elle m'envoie des SMS, elle me dit, Minette, je vois que t'es en ligne, en fait. Donc, réponds. Et là, mais moi, je me décompose de l'intérieur. J'écris aux filles en même temps. Je leur dis, les filles, c'est pas possible, en fait. Là, elle me dit qu'il faut que je l'appelle et tout. Je vais pas la laisser comme ça, machin. Et
j'avais tout le monde.
En fait, tu savais.
Tout le monde. Enfin, oui, là, comme j'avais reçu ce message-là.
Et voyant que personne te répond, tu sais.
C'est ça. Mais en même temps, c'est horrible parce que t'as quand même envie qu'on te le dise. Ouais. Parce que là, t'es dans cette espèce de demi-attente de tu le sais, mais personne ne te le confirme. Ouais. Et je les appelais toutes une par une. Et finalement,
c'est moi qui ai fini par. Où tu m'as appelé et je finis par décrocher, oui, je sais pas. Ouais. Mais je crois que ce qui se passe quand même, c'est que j'ai un petit go de l'autre côté. Hein. Écoute, vas-y. Enfin, tu vois. Mm. Parce que là, t'es dans un espèce de conflit de loyauté atroce, tu vois. Parce que d'un côté, effectivement, tu te dis, c'est la meilleure idée. Enfin, tu vois, qu'elle l'apprenne en ayant des bras, machin. Mais en même temps, là, tu te dis, de toute façon, elle a compris. Donc, en fait, c'est ridicule. Mm. Mais en plus, bon, tu t'imagines bien que dans ces cas-là, t'as déjà pas toutes tes neurones à la bonne place. Donc, bon, je finis par décrocher ou je finis par l'appeler, je sais plus. Mais j'ai même pas besoin de lui dire quoi que ce soit, en fait.
Non.
C'est-à-dire que je décroche, je dis Caro, je pleure, voilà, terminé. Enfin, en fait, voilà. Et je me fais défoncer. Mais bien sûr. Je me fais défoncer et je dis rien. Enfin, tu vois, bien sûr.
Et je me souviens d'une phrase complètement débile que je te dis, du genre, pourquoi c'est machin qui me la prend ? Et elle me répond, est-ce que ça a vraiment une importance ?
Oui, c'est vrai.
Mais tu vois, pour te dire, je suis dans un état de. Il n'y a plus de conscience. Ça rend ouf. Je suis là, putain, j'étais pas là. Enfin, c'est arrivé et j'étais pas là. Mmh. J'ai tout loupé et je viens de la perdre, quoi.
Mmh. Ouais. Et en plus, c'est quelqu'un d'un peu éloigné qui l'apprend. Et donc, sous-entendu qu'il l'a su même avant moi. Mmh. Enfin, tu vois.
Et tout ça dans un hall de gare.
Entre deux avions.
Dans la queue pour montrer mon billet pour embarquer dans l'avion. Un chouette moment.
Il n'y a pas de question de est-ce que tu fais demi-tour ? C'est j'y vais.
Ah non.
Ouais.
Bah, de toute façon, j'ai. Non, alors. Oui, alors franchement, c'est une bonne question.
Non, mais...
Parce que je ne me la suis pas du tout posée. J'avais mon billet entre les mains, il fallait que je rentre. Enfin, non.
Non, c'était impossible. Enfin, forcément, tu allais venir, forcément. Tu avais besoin d'être avec nous. Ouais. Enfin, en fait, les deuils, tu as besoin de les vivre aussi avec les gens qui partagent la même chose que toi. Quoi. C'est pas possible.
Et qu'on connu la personne aussi. Mmh. Alors, pas que ton mari ne l'ait pas connu. Mais...
Oui, mais versus toutes les copines, c'était effectivement, ils la connaissaient moins, parce que moins d'années vécues avec elle. Mais ouais, non, rentrer direct. Ah bah l'avion, le deuxième avion était un petit bonheur.
Est-ce que t'as trouvé quelqu'un dans l'avion ? Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ta détresse et qui t'a entourée ?
Non, parce que j'avais mis Alors j'ai fait vraiment la meuf inaccessible. J'avais genre un sweat à capuche et par-dessus une veste à capuche. J'avais mis les deux. J'avais mis mes cheveux bien détachés.
Les lunettes de soleil.
Pas de lunettes de soleil, mais néanmoins les cheveux bien détachés. C'était un vol de nuit en plus. Donc, je voulais que personne me parle. Je voulais limite, tu sais même pas que l'hôtesse vienne te voir en mode « Vous voulez un verre d'eau ?» Enfin, c'était le moins de contact possible. Et je me souviens que la personne à côté de moi, je pense, a dû ressentir ma haine que je dégageais en mode « Ne me parlez pas. Je pleure et je suis en même temps extrêmement en colère contre moi. » Donc, d'avoir loupé ça, d'être arrivé trop tard.
Quelqu'un vient te récupérer à l'aéroport ?
Oui.
Qui ?
Hélène, une amie d'enfance. Et bon, alors là... Bah, je m'effondre dans ses bras pour là, je ne sais pas combien de fois de la journée.
Il restait là.
Et oui, il restait là. Et on va chez Cousty à Paris. Et voilà. Et puis là, on enchaîne les 9 jours les plus longs de l'histoire de France, je pense, parce qu'elle a mis 9 jours avant d'être incinérée. Et voilà. Et donc là, en fait, on a l'impression de revivre le truc de l'hôpital. C'est qu'en fait, au lieu de passer nos après-midi à l'hôpital avec elle, on passait nos après-midi dans au funérarium, autour de son cercueil.
Mmh. Hyper fun.
Ouais.
Et donc, vous y êtes tous les jours pendant 9 jours.
Presque tous les jours,
Bah, moi, ce qui se passe, c'est que du coup, elle décède un mercredi. Je crois que j'arrive à Paris le vendredi pour voir Caro, en fait. Parce qu'elle est rentrée, parce que machin. Mmh. Donc là, on se saute dans les bras. Et ce qui est rigolo, c'est qu'une des premières choses qu'elle me dit, c'est « je vais me faire tatouer ». Et alors qu'on s'en était pas parlé. Donc bien sûr, on s'est fait tatouer.
Et toi, tu lui avais dit à Clémence.
Je l'ai dit à Clémence, mais j'en avais pas parlé à Caro. Et en fait, du coup, franchement, un des premiers trucs qu'elle me dit, c'est « je vais me faire tatouer ». Et je lui ai dit « mais moi aussi ». Donc on va le faire toutes les deux. Enfin, en fait, voilà.
Vous avez le même ?
Non. Non. Mais on l'a fait le même jour.
Ouais. On l'a fait avec la même personne le même jour. Et du coup, voilà, parce que moi, j'y allais pour voir Caro à ce moment-là. Parce que je savais que... Enfin, je savais pas, mais j'ai appris assez vite que du coup, ça allait être long derrière. Je sais même pas si j'ai été voir Clémence à ce moment-là, si elle était visible si tôt. Mais,
oui, parce qu'au funérarium, moi, j'y suis jamais allée. Donc, ça va peut-être être des questions qui vont paraître bêtes, mais... Il y a la possibilité de voir le corps du mort.
Ah, mais c'est à ça que ça sert, le funérarium.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pour voir une dernière fois la personne.
Alors, en fonction de l'état du corps, effectivement.
Et tout, ouais, c'est ça.
Et là, elle était habillée, maquillée, extrêmement présentable.
Et donc, elle s'était apprêtée pour t'accueillir.
Exactement. Bah, oui, j'en attendais pas moins. Et je me souviens, moi, un des trucs, les premiers. Donc, j'arrive dans cette grande salle, parce que c'est une salle assez grande. Mm. Et je m'effondre dans les bras de sa mère. Et le truc qu'elle me dit, c'est... Arrête de culpabiliser de ne pas avoir été là. Mmh. Bon, j'ai encore du chemin à faire, visiblement, là-dessus. Mais ouais, c'est direct le truc qu'elle me dit, même sans me dire bonjour, je pense que elle me dit ça direct.
Elle te dit arrête de culpabiliser. Dans les phases du deuil, il y a la culpabilité. Peu importe comment tu le vis. Là, toi, c'était la culpabilité de ne pas avoir été là. Lucie, je ne sais pas, c'était peut-être la culpabilité de ne pas avoir été assez là. Peu importe de se dire j'aurais pu faire les choses autrement. Et du coup, elle est en train de le vivre aussi. Donc, elle te donne un conseil, il vaut ce qu'il vaut, mais parce qu'elle sait que sinon tu vas t'en vouloir toute ta vie.
Oui.
Mmh. Et c'est encore un peu le cas.
Mmh. Oui.
Oui, bien sûr. C'est rigolo que tu parles de ces phases du deuil parce qu'en fait, pour le coup, c'est un deuil qui commence pas à sa mort, Clémence.
Bah ouais.
Et donc en fait, parce que comme tu disais ça, que tu disais la culpabilité, que je me disais, mais moi j'ai pas senti la culpabilité, mais en fait, si, j'ai senti avant.
Ouais. Toi, ça avait déjà commencé.
Bah c'est ça, c'est-à-dire que, mais en fait, je pense que pour tout le monde dans ces cas-là, enfin j'en sais rien. Bon, je vais juste parler pour moi, mais moi mon deuil, il a commencé avant qu'elle s'en aille vraiment, tu vois. Parce que ben tu sais en fait ce qui va arriver, donc moi j'ai commencé à me, enfin je sais pas quelle est la première phase, mais il y a eu ce truc un peu, ou alors c'est un peu un deuil à deux échelles, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un truc un peu en lame de fond que tu voilà, sur lequel tu processes, ce qui fait que des fois, t'es toute seule chez toi et tu chiales parce que tu sais que ça va arriver, même si elle est encore là. C'est sûr que oui, il y a la violence quand même du moment où ça arrive. Il y a la violence de certains moments au funérarium. Il y a la violence et en même temps, le truc joli, hein, encore une fois, de la cérémonie. Parce qu'elle a une cérémonie, mon gars, laisse tomber. C'était un truc exceptionnel.
Je le pense, t'as jamais eu autant de... Aussi.
Oui. Ouais, c'était plein de vie.
C'est avec des larmes, hein, j'imagine, beaucoup.
Mais on célébrait sa vie, ouais.
Ah bah c'est clair. Et il y a eu, je sais pas, 12 personnes qui ont parlé. Enfin, c'était énorme. Le truc était...
Enfin, on lui a même fait une standing ovation à un moment donné.
Non, mais franchement, c'était vraiment... La cérémonie était vraiment super. Je pense que quand même, le fait que moi, en tout cas, personnellement, j'avais commencé le deuil avant, il y avait peut-être plus la culpabilité, justement, de ne pas être assez là, mais pendant, quand elle était encore là. Du coup, elle a pas trop existé après cette culpabilité, je pense. Et puis, je pense que le fait, franchement, d'avoir eu cet échange, enfin moi, ça a aidé sur un certain nombre de trucs quand même, quoi, je pense. Enfin, en tout cas, je me suis dit, bon, si elle avait un tac à mettre, elle me l'a mis. Bon, elle m'a pas vomi dessus, elle aurait pu, c'est vrai. Donc, je me suis dit, peut-être, il y avait pas trop de tac à mettre.
Un peu de déception, quand même.
Un peu déçu, quand même. Tu vois, un petit peu de peps, quoi.
Donc, tu t'en veux à mort, encore aujourd'hui.
Oui.
Funérarium, cérémonie où vous organisez, donc toi tu organises des slides,
on est
des photos.
Un peu tous mis à contribution et effectivement, quelqu'un gère la musique, quelqu'un gère les photos, quelqu'un. Voilà.
Est-ce que, parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, enfin, ça lui est pas tombé dessus du jour au lendemain, donc elle avait peut-être pu prévoir des choses.
Bien sûr.
Elle vous avait dit ce qu'elle voulait pour sa cérémonie?
Elle avait choisi la musique.
C'est tout.
C'est tout. Mais elle avait choisi les musiques. Et moi, c'est un truc qui m'a vachement marqué parce que, même si les gens ne comprennent pas quand je dis ça, mais moi, ça m'a rendu hyper triste qu'elle ait choisi des musiques aussi tristes.
Okay.
Ça m'a rendu hyper triste. En même temps, t'as envie de dire, t'espérais quoi en fait? Une petite lambada, enfin.
Mais pourquoi pas?
Mais je me rappelle que, parce que moi, je ne connaissais pas la playlist avant la cérémonie. Mmh. Et quand j'entends les trucs, je me dis. Ouf.
Abusé, quoi.
Bah non, mais ça a rajouté. Oui, c'est ça. Et surtout, non, mais là où ça m'a fait de la peine, c'est que je me suis dit, ce qui paraît con, elle était vraiment triste. Enfin, tu vois, bien sûr, Lucie, en fait. Mais pour le coup, égoïstement, ça m'aurait fait du baume au cœur, qui est un truc, j'en sais rien, tu vois. C'est débile, hein, c'est débile. Mais
ouais, t'aurais aimé qu'il y ait une chanson qui célèbre la
un
vie
peu moins lourd.
Et
ouais,
les
un peu
soirées
moins lourd, quoi,
ou les
moins
moments
lourd,
joyeux,
vraiment,
quoi.
Ouais, c'était vraiment des trucs très vraiment vraiment mélancolique. Enfin, il y avait pas que ça, mais je pense qu'il y en a une particulièrement quand je l'ai entendue, je me suis dit
ouais.
OK. D'accord.
Donc, du coup, vous avez une liste de musique que vous pouvez plus écouter, j'imagine.
Mais en fait, j'ai retenu que celle-là, moi, finalement.
Ouais, moi, je me souviens pas trop grave. Pas de...
C'est pas trop grave parce que celle-là, tu l'entends qu'aux enterrements, en règle générale. Okay. Donc, c'est pas très grave.
Et comment ça se passe? Tu repars plus?
Si. Je reste un moment, parce que donc déjà 9 jours pour la cérémonie, entrecoupé moi de quelques passages quand même chez mes parents, et je dois repartir.
Peut-être qu'ils t'entourent aussi, qu'ils sont là à la cérémonie, non?
Mes parents?
Non.
Non, mes parents sont assez pudiques là-dessus.
D'accord. Okay.
Donc c'est plus par respect finalement okay. de pas vouloir être trop présent dans le sens mauvais du trop présent. En vrai, ils savaient aussi que j'étais déjà méga entourée.
Oui, parce qu'en fait, vous vous entouriez toutes et tous les uns les autres.
On était un groupe, tu pouvais y aller pour nous dessouder.
Vous étiez là, pour vous l'une et l'autre, mais, et pour les autres aussi, mais pour les parents de Clémence, Françoise, qui faisait partie intégrante de votre groupe soutien. Quoi.
Ouais. Françoise Hervé, tout le monde était là pour tout le monde, quoi. C'est, pas de sujet. Et donc, je reste, ça c'est une bonne question, combien de temps je reste? Je pars peut-être une semaine après l'enterrement, parce que moi, de l'autre côté, j'ai quand même Jérôme, qui est tout seul, tu vois, et qui est tout seul dans un projet à deux, où ça fait 2 ans qu'on en parle, et je n'ai rien en France, on n'a plus d'appart, mes fringues sont en vrac dans des valises au grenier de chez mes parents, donc j'ai zéro truc d'hiver, enfin, tu sais, c'est des trucs très cons, mais je ne suis pas censée être là. Ma vie avait été bookée pour que je ne sois pas là à ce moment-là. Donc, je dois rester une semaine et je retrouve Jérôme, du coup, cette fois-ci en Nouvelle-Zélande, qui avait fini le parcours qu'on avait prévu en Australie. Et on se retrouve en Nouvelle-Zélande. Et là, comment dire, j'ai rien d'œil? Non. Je m'embourbe dans une situation très critique qui pèse du coup beaucoup sur mon couple. C'est très compliqué. Et vient en plus le Covid. Et le confinement.
C'est ça.
Et donc, on se retrouve confinés
dans
en Nouvelle-Zélande.
Van, j'imagine.
Non, alors on a hésité.
Parce que la Nouvelle-Zélande, souvent, c'est le van. C'est pour ça que je dis ça.
Non, on a hésité pendant 10 minutes et on s'est dit, on va s'entretuer, comme couple normal, parce qu'un van, c'est très petit. Et donc, non, on a une solution. Bref, un des meilleurs amis de Jérôme habitait en Nouvelle-Zélande depuis 8 ans. Il nous trouve un logement, etc. On rentre à Auckland. On est confinés dans une maison. Mais on est confinés, quoi. On est confinés et là, c'est un espèce de truc très bizarre pour tout le monde. Un mois à peine après le décès de Clémence, où on est séparés tous.
Et est-ce qu'à un moment donné, en fait, vous vous dites... Enfin, c'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais heureusement qu'elle est morte avant.
Parce que là, on entendait parler des enterrements où les gens ne pouvaient pas dire au revoir. Et c'est directement ce qu'on s'est dit. On s'est dit, mais Dieu merci.
Parce que Clémence, il faut savoir qu'elle est partie le mercredi soir, après-midi, je ne sais plus exactement. Tout le monde était autour.
T'avais pas de restrictions là. Même moi, tu vois, j'ai pu prendre l'avion. On commençait à parler un peu de masque et tout ça, mais dans l'avion, j'avais pas de masque. C'était début février, donc ça commençait vraiment à être la merde en mars, tu vois. Donc on a eu un mois de battement.
Ouais, donc finalement, dans la douleur et l'horreur de ce qu'il vous avait vécu, c'était le meilleur moment.
Ah ouais. C'est et clair. Puis même pour elle, on se disait, mais t'imagines là, si elle était encore hospitalisée, elle ne voyait plus personne. Donc elle passait de 10 visites par jour à rien. Et on s'est dit, ça aurait été horrible. Non, en fait, finalement, l'un dans l'autre, le timing était de notre côté, quoi.
Bah, c'est ça. Tant qu'à choisir, il n'y avait pas de sujet, quoi.
C'est clair. Mais par contre, le deuil, l'une et l'autre à vivre en étant coupée du reste du monde, et toi encore plus, avec une distance énorme.
J'en ai chié.
Ça devait pas être simple, quoi.
Non.
Bah en fait, c'était hyper particulier. Et en même temps, pour le coup, il y a vraiment 2 dynamiques différentes entre Caro et moi par rapport à ce deuil, quoi. Parce qu'au final, là où pour moi, ça a été, je vais pas dire une sorte de point final, mais en fait, avec tout ce truc hyper intense et en même temps dont on a besoin, nous les humains, du recueillement, du deuil, de la célébration, de machin. En fait, après, presque même, c'était, je sais pas, peut-être ça a facilité même les choses pour moi, que ce soit pas pendant quelque temps une vie normale derrière que je retrouve, tu vois. Et donc, il y a cette espèce de confusion et machin. Et aussi, un moment où tu te poses, tu vois, où, c'est ça, en fait, la nouvelle réalité. Et en fait, de toute façon, moi, le décès de Clémence, pour moi, sa maladie et son décès a fait un vrai déclic par rapport à mon métier. Le confinement, on a fait un second. Et il y a d'autres histoires, ensuite, après, qui ont fait que ça m'a amené, en fait... Clémence, c'est aussi le début de me dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, tu vois. Et c'est aussi le début de se dire, en fait, peut-être qu'il faut s'occuper des gens pour qu'ils sachent bien s'occuper d'eux. Les raccourcis se font très mal avec un cancer, mais et encore, tu vois. Enfin, en fait, toute cette notion de santé physique et mentale, Caro avait déjà commencé à identifier ce truc-là, mais je pense que le fait que toutes les deux, on travaille dans Enfin, Clémence y est sans doute pour quelque chose.
Effectivement, nous avons quitté le monde de la communication pour ce que, si ça jamais ce n'était pas clair, pour être maintenant dans le bien-être.
Exactement, exactement.
Et on le doit à notre petite Clémence.
Ben, je pense, ouais. Franchement, je pense.
Parce que du coup, on va revenir après sur comment tu as vécu ton deuil, mais le chemin pour changer de vie professionnelle, on va dire, la graine a été plantée par Clémence, par ses derniers instants et tout. Mais comment vous vous dites « je change » Et c'est aussi parce qu'on a vécu ça que c'est le moment d'y aller, quoi.
Bah moi, ça s'est fait hyper naturellement parce que du coup, après la fin du voyage, vient le retour à Nantes où cette fois, il faut que je fasse quelque chose de ma vie parce que ce projet voyage, ça y est fini. Donc, next, quoi. Et donc, next, c'est bah, tu viens d'arriver à Nantes. Du coup, enfin, tu es à nouveau de retour à Nantes.
Cette fois, elle est de retour et elle ne me lâche plus.
Voilà.
Yes.
Et bah, c'est le moment parfait, en fait. Moi, tous les feux sont ouverts pour que je n'ai pas de questions à me poser. Donc, je me forme. Je fais une formation de plus d'un an. Je fais des stages. Je participe à des trucs. Je fais d'autres formations. Enfin, bref. Et donc, voilà, j'apprends mon nouveau boulot. Et tout se fait avec une fluidité déconcertante. Souvent, les gens, ils te disent quand tu te reconvertis, « Ah là là, mais t'es courageux. Ça doit être difficile, etc. » Et à chaque fois, je suis là, ben, pas pour moi. C'est... J'arrivais devant un feu, bam, il passait au vert. Et un nouveau feu, hop, c'était vert. Et hop, un nouveau feu, hop, c'était vert. Tout s'est fait de manière fluide. Donc je suis arrivée là sans embûche, comme si, bon, bah, la vie me disait, c'est par là, continue toujours tout droit. Bon, bah, d'accord, super.
Est-ce que vous croyez aux signes?
Oui.
Et donc, elle est où, Clémence, dans les signes du quotidien?
Elle est partout, nulle part. Elle passe souvent sa petite tête, un petit truc qui vient. On a une amie en commune qui nous fait aussi des soins énergétiques. À chaque fois, elle ne l'a pas connue. À chaque fois, elle me dit « Oh bah tiens, j'ai une petite dame rousse qui arrive. » Oui, bon bah c'est bon, je sais qui c'est. Donc, elle est là tout le temps. Et en même temps, des fois, on se regarde et on se dit « Mais si elle nous voyait aujourd'hui, elle nous dirait « Mais vous êtes des grandes malades avec vos soins, vos pierres, vos trucs. » Elle nous appellerait les vendeuses de fées. Et en même temps, ça nous fait rire. Et puis en même temps, on sait qu'elle est là et qu'elle nous fait un petit clin d'œil, quoi.
Mais ouais, c'est sûr. Moi, Clémence, elle est là quand il y a des trucs qui me passent sous le nez et je sais qu'il la ferait marrer. Des trucs, il s'agit souvent de se moquer des gens, on va pas se le cacher. Mais tu vois, je pense à elle à ce moment-là. Et il y a un truc qui est très drôle, c'est que j'ai lancé un projet dernièrement et la soirée de lancement va être le 21 mars. Et en fait, je l'ai appris en parlant avec une nana qui s'appelle Clémence qui m'a dit « Mais c'est la Saint-Clémence le 21 mars ». J'étais là, bon, bah, alors ça devrait bien se passer.
Ça peut que bien se passer.
Ouais, c'est ça.
Pour toi, le deuil, ça a été... Alors, je dis pas que pour toi, Lucie, ça a
bien
pas
sûr,
été
non, non, mais hein. Bien sûr.
Raconte-moi justement comment tu as vécu ce deuil. Et...
Très mal, sans surprise.
Ah bon. C'est étonnant parce que franchement, je trouve que les conditions étaient idéales.
Vraiment, ouais. Non, très mal parce que donc, encore une fois, cette grosse culpabilité de me dire, en fait, tu avais un truc à faire pour célébrer ton ami et t'as pas été capable de le faire. Donc ça, bon, voilà. Très compliqué à vivre. Quand toi, tu disais que tu avais un peu commencé ton deuil en amont, moi, pas du tout. Pourtant, je le savais. Hein. Enfin, c'était clair que ça n'allait pas bien se finir, cette histoire. Mais une espèce de hier, de non, 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 ça va pas... Non,
pas ça,
non, 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 non. En tout cas, moi, je veux pas. Donc, voilà. Et du coup, je me suis vraiment pris sa mort comme un choc. J'étais en colère contre elle, horrible à dire. J'étais en colère qu'elle m'abandonne. En colère, donc bien évidemment, contre moi. Et en plus, j'avais cette espèce de truc de j'ai perdu ma meilleure amie. J'avais l'impression de perdre ma place dans le groupe aussi, parce qu'en fait, au moment de l'enterrement, je me suis rendu compte que, et c'est bien normal, mais que les autres filles ont continué d'être amies et ont continué de vivre des choses ensemble. Et là, je me suis pris cette claque de en fait, tu fais plus partie de ce truc-là. Et c'est normal, j'étais pas là. Mais donc, il y avait cette autre perte que je réalisais qui m'a fait un mal de chien aussi de. T'as perdu ta place aussi avec ces filles-là, avec les parisiennes, parce que j'habitais plus à Paris. Mais je l'ai réalisé à ce moment-là, donc voilà, on te remet une petite claque derrière la tête. Et puis, bah, t'es à l'étranger, t'es à l'autre bout du monde. Et du coup, bah, j'avais pas de soutien, quoi. J'avais pas de soutien de personnes qui l'avaient connue, avec qui je pouvais parler d'elle. Enfin, j'avais 12 heures de décalage horaire. Enfin, c'est hyper compliqué. Donc, je me suis embourbée dans un truc de colère, de solitude, d'amertume, d'incompréhension, de. Pff, très dur.
Et sans doute, tu t'es forcé aussi un peu de faire bonne figure pour pas foirer votre projet à deux, pour pas foirer le voyage de Jérôme. Non.
Si tu lui poses la question, il va faire non.
Oui, non, mais d'accord, mais entre ce qu'il a ressenti et ce que toi, t'essayais de faire comme ça, bah, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, en fait, là, il y a eu une incompréhension, mais parce que incompatibilité des caractères à ce moment-là, c'est-à-dire que lui, ça va être. En gros, il me proposait tout le temps de faire des choses pour me faire penser à autre chose. Alors que moi, tout ce que j'avais, c'était de me contempler dans ce malheur-là. Et du coup, bah. On s'engueulait en plus à cause de ça. Parce que je lui disais, tu comprends rien, tu m'aides pas. Et lui me disait tout le temps, mais en fait, je t'aide à ma façon parce que j'essaye de te proposer d'aller visiter des trucs, de faire des sorties, de faire des choses, etc. Donc, hyper compliqué. On a eu d'ailleurs à ce moment-là une très grosse crise où, à un moment donné, on a eu une discussion en mode, en fait, on va s'arrêter là, quoi. Parce que je m'en sortais pas. Je m'en sortais pas de ce deuil-là, etc. Donc finalement, l'un dans l'autre, le confinement, je me demande s'il n'a pas un petit peu aidé, parce que c'est la première fois que j'ai téléchargé l'application Petit Bambou. Mais pour vous dire, hein, comme quoi le bien-être, finalement, m'a refait coucou à ce moment-là. Et j'ai fait les espèces de 5 méditations gratuites. Mais je vous jure que ça m'a fait un bien fou. De juste pendant 5 minutes, ne plus avoir ces idées si noires. Et c'est là où je me suis dit, en fait, tu ne peux pas continuer là-dedans.
Parce que toi, tu ne voyais pas ta vie continuer tout court ?
Sans elle, ouais, c'était compliqué. Ouais. Et puis, ouais, encore une fois, dans ce truc de confinement, en plus de où la vie de tout le monde s'est arrêtée, enfin, c'était très bizarre.
C'est quoi ce monde, c'est quoi ?
Ouais, c'était un mélange très bizarre. Et du coup, ouais, de juste méditer. Alors, en plus, je suis une brêle en méditation, mais juste avoir ces moments où on te dit, bah, concentre-toi sur ta respiration, sur ton corps. Je sortais de là à chaque fois en me disant, ok, j'ai eu une petite parenthèse là.
J'ai eu 10 minutes sans pleurer, quoi.
Et je pense qu'il y a ça aussi qui m'a vraiment amenée, sans vraiment le reconnaître et le conceptualiser dans mon esprit, mais ouais, ok, en fait, le bien-être, ouais, c'est hyper important. Et ça peut t'aider.
Pour aller mieux, suite au décès de Clémence, Caro a fait de nombreux soins en médecine douce et tout a fini par s'aligner, comme si c'était écrit finalement. Comment ça s'apaise la douleur ?
Le temps. Ouais. Réponse de base, mais le temps, la fin du confinement, la reprise à voyager en van, tout ça, c'est apaisé au fur et à mesure des semaines et des mois.
Quand vous vous retrouvez, toutes les deux, que tu rentres à Nantes, ouais. Le deuil a fait son bout de chemin, même si on ne s'est jamais vraiment terminé, hein, et puis ça prend le temps qu'il faut pour, selon les personnes, les personnalités et tout. Vous vous retrouvez toutes les deux. Et là, ça y est, il n'y a plus de trio.
Si. Bah en fait, ouais. Si le trio il existe toujours. En fait, enfin le nombre de fois où mais c'est pas un truc, je sais pas comment dire, c'est pas un truc qui est dans le fait de vouloir retenir. C'est pas un truc qui se fait dans la force où on se sent obligé de devoir faire référence à Clémence, c'est qu'en fait elle fait tellement, enfin la photo qu'on va te passer, quand je l'ai postée sur Insta, j'ai écrit jamais 2 sans toi avec le R entre parenthèses, ce qui faisait jamais 2 sans toi. Et en fait c'est ça. Enfin, tu vois. Tu vois, il n'y a pas de sujet, il est là, quoi.
Et votre dynamique, elle change malgré tout.
Oui.
Parce que de 3 duos plus un trio, il n'y a plus qu'un duo, même si...
Oui.
Je comprends exactement ce que tu dis. Hein. Mais du coup, comment vous arrivez à vous retrouver? Comment...
Il n'y a pas de sujet.
Non.
Et il y a toujours... c'est jamais un tabou aussi.
Non, jamais. Jamais. Ah non. Ça, je pense que c'est une de notre... Enfin, la force de notre amitié, c'est qu'il n'y a pas de tabou. Dès qu'il y a un sujet, on peut mettre une petite semaine, 2 semaines à en parler.
Le temps qu'on digère.
Mais on communique, quoi.
Et j'irais même plus loin. En vrai, on n'a pas le droit de foirer notre amitié. Non, mais c'est con.
Waouh. Ok, poids sur mes épaules.
La pression. Non, mais pas du tout. Mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Je me dis... Je sais pas, je ressens un truc de... de toute façon, on la foirera pas, quand bien même un jour on se voit qu'une fois par an, enfin c'est pas le sujet en fait. Ce qu'on a partagé, ce qu'on a vécu, quoi qu'il en soit, même si peut-être un jour on se voit plus, j'en sais rien, en tout cas, jamais fâché, enfin tu vois, c'est pas possible quoi. Fin...
En fait, il y a quelque chose de trop fort dans votre histoire.
Ouais, oui.
Et je souris parce que, en fait, elle continue à faire le lien.
Ah bah oui.
Mais c'est clair.
et en fait, c'est plus fort que tout.
Ah mais non, mais c'est il y a pas de sujet. Enfin, c'est clair et net. C'est clair et net. Et au final, avec Caro, et l'histoire nous l'a raconté. S'il y a des fights à avoir, c'est plus entre nous deux en vrai dans le trio à la base, tu vois. Et en même temps, ça nous a liés aussi d'une autre manière. Je pense que la façon dont on a vécu notre deuil, la façon dont on a senti ce truc aussi hyper instinctif d'avoir besoin de se réfugier un peu l'une avec l'autre à certains moments sur ce deuil, etc., etc., ce tatouage. Enfin, en fait, le fait de se rendre compte qu'il y a un truc hyper naturel qui se fait entre Caro et moi dans ces moments de difficulté là, tu te dis ben en fait, enfin voilà, il y a pas de sujet et c'est difficile de mettre des mots dessus, tu vois.
Vous êtes votre socle l'une et l'autre aujourd'hui.
Elle fait partie de mon socle, oui, c'est sûr.
Je lui apprends tout. Voilà.
Non, mais oui, c'est. Ben oui, mais je crois que je sais plus à quelle occasion, mais je crois qu'un jour je te l'ai dit que ton amitié était structurante, quoi, pour moi. Donc oui. Ça fait partie de mon socle. Tu vois, j'ai pas fait beaucoup de compliments au moment de la présentation. mais oui, bah c'est oui, c'est un socle, ouais. C'est clair. Enfin, pour moi, c'est une structure.
Vous aviez l'espace toutes les deux pour en parler de Clémence, de ce que vous aviez vécu, du deuil, des difficultés, des épreuves, tout ça. Je me mets dans la peau de certaines personnes qui osent pas parler quand ils ont perdu quelqu'un parce qu'ils ont peur de mettre les autres mal à l'aise. Qu'est-ce que vous recommanderiez, vu que vous êtes passé par une phase de deuil et très forte, très importante, qu'est-ce que vous pouvez recommander à des gens qui sont dans la même situation ?
Moi, ça serait justement en parler. Et en parler ne veut pas forcément dire dramatiser la situation. Au contraire, en parler, c'est célébrer la personne, c'est célébrer sa vie. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de taire, justement. Ça veut dire quoi ? Si tu t'en parles pas, ça veut dire que la personne n'a pas existé. Et je trouve que c'est pire. C'est pas un tabou. C'est justement, c'est continuer à la faire vivre, continuer à vivre toi avec elle, même si elle n'est plus là. Et oui, c'est sûr que c'est lourd, mais le temps fera son travail. Et ça veut vraiment pas dire que c'est un truc que tu vas cloisonner. En fait, pour moi, ne pas en parler, c'est vraiment mûrer cette histoire, mûrer ta relation avec la personne, mûrer la personne elle-même. Non, c'est au contraire, c'est justement parce qu'elle est plus là qu'il faut continuer à la faire vivre et à la célébrer en parlant d'elle.
Et en
rigolant, tu vois, des souvenirs, des trucs de... Nous, on continue à la vanner, même si elle est plus là.
Parce que elle n'était pas parfaite.
Et on se vanne à sa place.
Oui, surtout. On lui fait dire ce qu'elle nous aurait dit.
Ouais, c'est clair.
Est-ce que vous avez des moments pour la célébrer ? Je sais pas, mais tu vois, je sais par exemple qu'il y a certaines personnes, quand ils perdent un enfant très jeune, ils vont continuer à se rassembler en famille pour le jour de l'anniversaire, pour fêter ça. Est-ce que vous avez des moments de célébration autour d'elle, même si elle n'est plus là ?
C'est rigolo que tu en parles parce qu'on se retrouve en avril avec donc ses parents, Françoise et Hervé, et donc les filles du groupe. On se fait une journée tous ensemble à Rennes, qu'on a déjà fait l'année dernière aussi. Et donc, ouais, on a ce petit rituel une fois par an au moment du retour des beaux jours de se faire un petit après-midi tous ensemble.
Trop bien. Mais ça n'a rien à voir avec aucune date clé.
Non, c'est les agendas tout bêtes de tout le monde qui ont fait que... Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, j'étais assez rigide là-dessus. Où effectivement, il fallait que je pense à elle le jour de son anniversaire, il fallait que je pense à elle le jour de sa mort, il fallait que je sois présente à tel endroit quand on a mis son lion dans un cimetière. Voilà, c'était des trucs où il fallait que je sois présente. Et c'est mon mec qui m'a dit... Mais en fait, tu penses à elle tous les jours. Oui, littéralement, même aujourd'hui, je pense à elle tous les jours. Donc, il m'a dit, donc pourquoi ça compterait plus le jour de son anniversaire ? Et ça m'a débloqué un truc de poids sur les épaules de, ouais, elle est toujours là et je pense à elle tous les jours. Donc, est-ce que c'est plus important de penser à elle le jour de son anniversaire ou finalement tous les jours ?
Et puis, tu sais, dans chaque bande de potes, tu crées des dialectes, des références en commun, des machins. Et donc, ces références... Bah, ça fait 14 ans qu'on se connaît, s'il y en a qui traînent depuis 14 ans, elle existe aussi dans ces trucs-là, quoi. C'est-à-dire que les tics de langage, les machins, les références de films, les musiques, les machins, enfin en fait...
Ouais, elle vit à travers vous encore.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est tout le temps en fait, c'est tout le temps.
Je suis impressionnée par votre force, parce que c'est vous qui êtes venue me chercher pour me raconter ça, et moi j'ai tout de suite accepté. On sent que c'est... célébrer la vie et c'est célébrer la personne qu'elle était et qu'elle est encore à travers vous.
Et plein d'autres gens.
C'est difficile, c'est sûr, mais je suis impressionnée par la force que vous avez d'arriver à en parler comme ça parce que c'est tellement tabou de parler de la mort qu'on a l'impression qu'il ne faut pas en parler, que c'est prendre des pincettes tout le temps et en fait, vous y allez vraiment à pieds joints. Donc,
ça l'a toujours été, ouais.
Mais je pense que aussi on en a tellement parlé avant, on a tellement fait des vannes, enfin tu vois, on a été loin dans le truc machin, et puis à un moment donné, je pense que peut-être c'est plus facile, je sais pas, comme on a pu en parler même avec elle, on a pu parler.
Oui, c'était pas soudain. Je pense que c'est pas pareil quand c'est une mort soudaine.
Et puis on a enlevé la pudeur du sujet avec elle. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que peut-être souvent, on n'ose pas trop parler de la mort des gens parce qu'on ne sait pas comment ils auraient, tu vois, aimé qu'on en parle parce que c'est très intime, donc forcément, il peut y avoir une pudeur. Mais en fait, comme cette pudeur-là, elle a été déflorée parce que les circonstances, quoi, et que c'est un sujet qui était déjà là, bah, peut-être que ça facilite aussi le fait d'en parler après, je ne sais pas.
Pour finir sur votre histoire, je pose toujours une question, c'est la question récurrente du podcast. Je demande toujours quelle musique vous fait penser. Alors, en général, j'ai des duos. Là, j'ai un trio.
Je suis curieuse d'avoir les réponses.
Et du coup, je demande toujours quelle musique vous fait penser l'une à l'autre et pourquoi. Là, on va élargir un peu, mais quelle musique vous fait penser à vous trois, à votre trio et pourquoi ?
T'as mis quoi ?
Mais moi, j'ai mis une réponse par rapport à elle. Pour moi, c'était j'avais compris sens de ta question d'une musique qui me fait penser à elle.
Bah, c'est quand même, c'est pas grave.
Eh bien, nous avons donc fait un nombre incalculable de soirées avec elle. Et donc, à chaque fois, on demandait avec Clémence la chanson « Diam se vita, confession nocturne », merci. Et on faisait le duo, donc elle était Vita et j'étais Diams. On la connaissait par cœur, on la tenait extrêmement bien.
C'était très beau,
voilà.
C'était beau à voir.
Moi, c'est direct celle-là qui me vient
et
en tête.
Et tu arrives à l'écouter encore aujourd'hui ?
Oui.
Ouais.
On a fait un très beau karaoké dernièrement.
Pour la première fois, je l'ai fait avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'était avec toi il y a un mois, deux mois, pour l'anniversaire de Guillaume.
Ouais.
Et toi ?
Et moi, il y en avait deux. Il y en avait une qui, pour le coup... Donc, les deux me font penser à nous trois. La première qui est Titanium de...
Oui !
I'm bulletproof, nothing to lose. Voilà, donc ça, c'est important. Et de l'hurler,
Bah oui, surtout.
Et très faux. Voilà. Donc, celle-ci, elle est pas hyper honteuse, tu vois, elle nous a tous fait danser, etc. Et une autre qui est un petit peu plus, elle est pas honteuse, mais voilà, c'est la danse des magiciens.
Ouh. Zouglou.
La danse des magiciens. Et notamment le moment où ça fait Azumaye.
Azumaye.
Parce qu'il y avait une choré qui allait avec.
Ah bah évidemment, mais bien sûr. Faut toujours faire des chorés.
Donc voilà.
On passe maintenant à la boîte vocale. Elles se sont laissées un message l'une à l'autre qu'elles découvrent seulement maintenant. Et on commence avec le message de Lucie pour Caro.
Bah, Caro, Clémence, moi j'ai découvert ce que c'était la vraie amitié entre femmes, enfin entre jeunes filles, avec vous. Et Caro, je suis honorée de devenir une femme à côté de toi. Et bah, j'ai hyper hâte qu'on se fasse... découvrir ce que c'est que l'amitié entre deux femmes et deux vieilles dames. Et voilà, et je vous aime, je t'aime, Caro, et ça, et ben pour toute la vie, quelle que soit sa durée.
Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, on dit souvent que dans la vie, il n'y a pas de hasard, mais que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être reconnaissant de ce que la vie a mis sur notre chemin. Et moi, en l'occurrence, j'ai eu le droit à une... J'ai eu le droit à une grande rouquine aux cheveux bouclés, Clémence. J'ai eu le droit à une petite blonde Minette. Et que sans ces deux femmes dans ma vie, je ne serais clairement pas celle que je suis aujourd'hui. Qu'elles m'ont apporté, qu'elles m'apportent et qu'elles m'apporteront toujours énormément. Et qu'effectivement, on était un trio. Aujourd'hui, on n'est plus qu'un duo. Mais c'est un duo, comme on le disait, qui a des putains de fondations et qui n'est pas prêt de s'arrêter et qu'on va continuer de faire grandir justement en l'honneur de notre trio et en souvenir de notre trio. Et que je les aime fort et que je les aimerai toujours. Et que pour clôturer, je vais faire un signe, mais du coup que personne ne pourra voir, parce que évidemment, c'est un podcast, mais je mets mon doigt dans mon nez et je lance une petite crotte de nez. C'était notre petit signe de ralliement et de rituel. On est toujours très mature. Voilà.
Vous êtes toutes les deux laissées un message que vous découvrirez qu'à la diffusion de cet épisode. Suspense. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
Ouh, d'être heureuse ?
Ouais, d'être heureuse.
Et plus de cancer, c'est bien ça aussi.
Oui, hein ? Ouais, moins.
On a donné ça dans les...
Je sais que la maladie de Crohn, on s'en sort finalement.
C'est pas si pire au final. Non mais ouais, d'être heureuse en bonne santé et de préserver en fait, la beauté des liens, quels qu'ils soient, pour chacune, entre nous et avec d'autres gens, et d'en créer d'autres.
De continuer à célébrer la vie. Voilà.
On célèbre alors. Merci beaucoup pour votre confiance et d'avoir partagé ça à moi déjà et puis à mes auditeurs et mes auditrices. Merci beaucoup.
Merci à toi pour ton écoute.
Ouais.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu es encore là, c'est que tu aimes le podcast, alors il te reste une seule chose à faire. Parle-en autour de toi, le bouche à oreille, c'est encore ce que l'on fait de mieux. Tu peux recommander ton épisode préféré à tes amis, à ta famille, à tes collègues, autour de la machine à café, mais aussi sur tes réseaux ou en message privé. Bref, merci de faire vivre Friendship au-delà de ton application de podcast. Et si tu veux poursuivre l'écoute de Friendship, je t'invite à découvrir l'épisode 64 avec Swann Périssé et Louane Manchot, dans lequel on parle de voyage, d'amitié à toute épreuve, de lien éternel et de temps de qualité. Et en attendant, je te dis à dans 2 semaines dans Friendship. Ciao! Découvre tout de suite un extrait de l'histoire de Victor et Ali. L'épisode arrive dans 15 jours.
Donc je me souviens, on avait un Excel de l'enfer où chaque jour, chaque heure, il y avait une activité.
C'est lever 7h45, ouais. 8h, le taxi vient vous chercher. Ça paraît idyllique comme ça, mais pour quelqu'un qui est libre...
Qui vient de vivre pendant 4 ans à la Maison du Bonheur en n'ayant pas trop de contraintes.
Et qui était habitué à faire des voyages à vélo. Ah ouais, pour moi, c'était un enfer.
Plus que ça, c'était pour Vito, c'était vraiment dur parce qu'en fait, c'était, moi, c'était mon paradis. C'est-à-dire que j'étais guidé, donc j'étais cadré pour faire des trucs de ouf, d'artisanat, etc. Et moi, je rêvais de ça. Et j'ai eu accès à des trucs avec Vito qui étaient pour moi dingues, tu vois. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi Vito arrivait pas à apprécier. Et alors que je le connaissais depuis longtemps et que je savais à quel point c'était important pour lui la liberté, tu vois. Et au début, je comprenais pas, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre qu'il se sentait mal parce qu'il était pas libre de ses mouvements. Mais c'est parce que moi, je bossais un petit peu. Et c'est surtout lui qui avait la charge du travail. Donc c'était lui qui faisait les photos, c'est lui qui faisait les vidéos. C'est lui qui devait penser à tout ça et faire du bon contenu parce qu'il est quand même perfectionniste.
Ouais, il y avait aussi le fait qu'on soit une énorme fraude. Ça, c'est un truc que tu n'as pas dit. Parce qu'en gros, on avait été contactés notamment pour une page de photos que j'avais. Mais en fait, j'avais très peu d'influence et très peu d'impact. Et je voyais la pression et l'attente des gens. Et moi, j'ai beaucoup de mal à gérer cette attente. Je trouve ça très oppressant. Et du coup, au quotidien, avoir des gens, sachant qu'en plus, j'avais bossé même comme un fou et que ça n'allait pas apporter quoi que ce soit pour eux. Enfin, je trouvais ça insupportable. Je me trouvais vraiment dans la peau de quelqu'un d'hypocrite, tu vois, de quelqu'un que j'avais pas envie d'être.
Tu m'as dit sur ce voyage au Japon qu'il t'avait saoulé.
Ah ouais, de ouf.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que bon, il y a ce planning hyper militaire, mais au final, ben, c'est pas trop de sa faute. Qu'est-ce qu'il a fait qui t'a saoulé ?
Bah, je crois qu'il s'en battait vraiment les couilles. Et moi, j'essayais d'être investi et hyper.
Vivre la meilleure vie, ouais, plutôt.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, j'étais épuisé et je trouve qu'il n'était pas très supportif du coup. Okay. Peut-être un petit peu égoïste, si je dois dire. Parce que, bah oui, en fait, je voyais un Ali qui vivait son rêve. Et moi, j'étais vraiment dans le pire des merdes tous les jours. Genre, je ne pouvais pas me lever. Enfin, chaque jour était une angoisse. Et j'ai dit, putain, bah ouais, c'est pas très supportif. Mais en même temps, avec le recul, c'est pas non plus sa faute.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous ?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast « Avant, j'étais prof ».
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast « Friendship ».
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.